Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment.
Témoignage. Parti pris. Coup de gueule. Bienvenue dans Chronique d'un quadra, le podcast sans langue de bois qui décomplexe les sujets complexes.
L'adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal.
The diamonds are symbolic of all the pressure they put on me until I shined. My life is symbiotic with the culture, I could never ever lose the vibe. Make sure they rolling one up for me, cause it's been a long ride. We doing this one for Money T. Keep his name alive.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique d'un quadra, le podcast qui décomplexe les sujets complexes. Alors, on est sur l'épisode miroir et moi, j'avais mis un petit peu de silence ces derniers temps pour écrire, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Et là, j'arrête pas de faire des épisodes et je trouve ça génial et je pense que vous êtes contents et contentes parce que Chronique d'un quadra vous accompagne au cœur de l'été. Vous êtes, alors je vous fais un peu d'ASMR, je vous mets dans l'ambiance, voilà, vous êtes sur votre plage privée, confortablement installée, et vous écoutez les pires conneries du monde, dites par le quadra habituellement, et pour l'occasion, Hyperion me rejoint, bienvenue à toi Hyperion, ça faisait un moment dis donc.
Mais oui, ça faisait un moment, bonjour, bonsoir, ça dépend quand vous nous écoutez sur une plage au clair de lune, bonsoir auditeur, auditrice, c'est toujours un plaisir, merci pour l'invitation.
Donc, la fois précédente pour le côté femme et féminité, je donnais un petit peu un galop d'essai, c'était l'occasion d'un petit galop d'essai pour Lucas, qui va se lancer dans l'aventure podcastique, mais pour attaquer... Le podcast miroir, l'épisode miroir de femme et féminité, c'est-à-dire homme et virilité, il me fallait, on va dire, un compadre qui soit bien dans ses baskets, dans ses Santiago, dans quoi ? Dans ses Richelieu qui
dans ses utilise... Richelieu fraîchement cirés avec du
exactement
avec du baran.
Exactement, pour attaquer un sujet qui forcément était obligatoire après avoir attaqué femme et féminité. Donc voilà pour le programme de cet épisode qui arrive assez rapidement après le chapitre 2. Donc on est sur le chapitre 3. Donc on va suivre la même structure Hyperion que j'ai opérer la fois précédente, donc c'est-à-dire commencer par une définition.
Une définition, absolument.
Voilà. Donc, toujours selon le Larousse, et oui, je sais, toi, néo-féministe qui n'a pas aimé la définition précédente, je l'ai pris au même endroit, le Larousse patriarcal. Il est là, il est présent, il est épais, il sent le soufre au travers de ses petits feuillets. Tu sens que je suis en forme, Hyperion.
Il est très en forme, ça fait plaisir de voir.
Exactement. Tu sais, ces vieux livres, là, un peu, qui ont un mélange de soufre et de vieux
mais
pâtés.
Mais sont les meilleurs, moi, j'aime pas les e-books.
Il le sent le fond de tiroir. Dis donc, voilà, de chez ta grand-mère ou ton grand-père, ou des deux, pour c'est ceux vrai. Qui ont encore les deux. Donc, la virilité, donc première définition, ensemble des caractères physiques de l'homme adulte, ce qui constitue le sexe masculin. Moi, j'ai beaucoup aimé la précision de l'homme adulte, parce que s'il n'est pas adulte, on pourrait avoir un homme non adulte, encore faudrait-il définir, mais effectivement, c'est l'ensemble des caractères physiques de l'homme adulte. Voilà. Donc, tu as pris la même définition que la mienne.
Absolument. Et comme on est chez Chronique d'un quadra, on fait le taf.
Exactement. Pas ne pas vraiment, aimé la ref,
oui. J'ai beaucoup aimé la ref. Je me suis arrêté, je l'ai savouré, je l'ai refaite. Et bien sûr, on a tous les deux nos notes. C'est un plaisir, effectivement. Donc c'est plutôt des caractéristiques d'un homme adulte, et oui, parce qu'il y a des petites différences qui se font au fur et à mesure. On verra vers des...
On va dérouler un petit peu, parce que effectivement, le Larousse s'arrête sur les caractéristiques. Voilà. Donc la fois précédente, j'ai plutôt déroulé ce qui pour moi représentait la féminité. Et ben, je vais faire la même chose, mais ça sera moins liste des courses, parce que comme vous l'avez compris, étant un peu hétéro, du coup, je ne vais pas m'amuser à vous dire « oui, alors moi, je les préfère un petit peu avec des pecs comme ça ». Mais nous allons dérouler les caractéristiques qui vont définir un homme. Alors, et tu rajouteras, bien entendu, parce que je vois que j'en ai oublié une qui me vient à l'esprit et qui est importante, où, mesdames qui écoutez ce podcast, vous y prêtez beaucoup d'attention. Et j'ai presque envie de dire que c'est presque l'un des critères les primordiaux que vous, mesdames, vous accordez à un homme, la taille.
C'est vrai.
Voilà. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi?
Absolument, absolument. Et ben, comme la forme, la silhouette et le poids, mesdames, c'est un peu caustique à entendre. Nous aussi, pour les hommes, la taille est un peu... Enfin, pour les hommes, la taille est une manière de décrire un peu la masculinité, évidemment.
Donc, voilà. Donc, c'est vrai que l'homme doit être plus grand. Voilà. Donc, alors, bien entendu, il y a toujours des exceptions, voilà. Donc, on reste sur le cas de figure général. C'est-à-dire que, généralement, voilà, si on devait faire un comparatif... Une femme d'1m70 s'orientera naturellement ou recherchera un signe de virilité chez un homme s'il fait au moins 1m80.
Absolument, ouais.
Ah, c'est la base, hein. Ça c'est le basique. Alors bien entendu, c'est ce que j'avais exprimé la dernière fois, moi j'aime bien aller à contre-courant, donc mon 1m76 aime bien aller taquiner la 1m70 pour lui faire comprendre en fait que 1m80, des fois, bah, si tu touches un peu, c'est un peu du flan, hein, t'sais, vous voyez le flan dans l'assiette là, comme ça là.
Absolument, donc, et c'est à ce moment-là que toute ta personnalité, ta gouaille et ta vision du monde peut faire la différence.
Exactement, mais c'est vrai que la taille est importante, donc un homme doit être grand. Ensuite, il doit avoir des mains et des pieds plus larges. Voilà. Donc, alors, je ne vais pas dérouler et à chaque fois spoiler ce que j'écris dans mon bouquin, mais vous verrez, pour celles et ceux qui l'achèteront, que j'ai un petit passage d'une de mes ex qui me parlait de la longueur des doigts chez un homme. Donc, je vous laisse imaginer
ce que ça peut
sous-entendre. Mais effectivement, voilà. En tout cas, un homme doit avoir de grandes mains et de grands pieds. Voilà. Des épaules aussi, une carrure. Voilà, alors on y viendra hein, il me fait des signes, hein, ouais, c'est ça la magie du podcast, peut-être qu'il faudra filmer un jour, mais effectivement on viendra au naseau, au nasal, au nez, voilà. Mais effectivement des épaules, du volume, alors le volume j'imagine équitablement réparti, mais là derrière ce qu'on doit voir c'est une masse musculaire.
Voilà. C'est vrai. Et même le côté symbolique du volume, c'est plutôt la carrure, l'envergure même.
Voilà, donc ça veut dire que l'homme, si on comprend bien déjà a priori dans les caractéristiques, doit occuper un espace. Voilà, donc dans ce qu'on appelle l'IRL, hein, la vraie vie, donc il doit pouvoir occuper l'espace, il doit être remarqué, à défaut d'être remarquable.
Absolument, et comme diraient les générations Z, on peut reprendre cette expression de « il est là, il est présent ».
Voilà, exactement. Donc, masse musculaire, pomme d'Adam, oui, ça c'est un signe très distinctif, hein, et qui permet aussi, pour vous messieurs, quand vous parcourez des zones du globe que nous ne nommerons pas, de faire le distinguo entre ce qui peut être une femme ou un homme. Voilà, si vous aviez un doute. Effectivement. Donc la pomme d'Adam, on arrive au visage, tu vas être content Simon, donc tu pourras parler du nez. La pilosité faciale, ça c'est un... Alors, je vois déjà les mauvaises langues pointées qui vont me citer, je suis désolé mesdames qui êtes d'origine portugaise, oui effectivement il y en a qui ont un peu de pilosité faciale, mais là on parle d'une vraie on parle de la barbe, voilà. Et du coup ça fait écho aussi à un retour qui est depuis une dizaine d'années, ouais, du barbeur, ça. De la barbe, comme
de
signe
la barbe
de virilité.
Bien entretenue comme nos grands-parents, si vous avez encore la chance de les avoir, ou vos arrière-grands-parents qui avaient les bacchantes, la barbe à guidon, en moustache, ce genre de retour traditionnel.
Donc voilà, donc ça, dans ces caractéristiques, on a pilosité faciale. Alors toi, tu voulais rajouter quelque chose sur le visage, vas-y.
Et oui, absolument. Donc je lisais, comme à mon habitude, vous me connaissez maintenant, je lisais quelques études scientifiques, que ce soit Psychologie Magazine ou des études plus sérieuses.
Putain, parlais beaucoup de arrête avec tes conneries, hein, tu vas nous sortir de la merde dans deux secondes. Tu as Doctissimo, et que c'est... Non, mais je plaisante.
J'y viendrai. Non, je rigole, bien sûr. Et c'était par rapport à la taille du nez. Donc beaucoup de personnes croient que sur un nez, et c'est bien malheureux parce que mesdames a un petit nez fluet ou aquilin, c'est toujours assez joli, et même chez les femmes, c'est assez beau. Et beaucoup de femmes disaient dans des études autant scientifiques, des études plus du commun, de vos magazines de plage, parce que vous nous écoutez, vous êtes sûrement à la plage, que la taille du nez était assez importante. On va prendre la figure de Cyrano, un cap, un nez, que dis-je, une péninsule, mais effectivement c'est un symbole de virilité, le nez au milieu du visage, et on peut même le raccorder, je fais une petite parenthèse avant de te redonner la parole, c'est directement corrélé dans des études donc de psychologie évolutionniste à un taux de testostérone très élevé, donc une capacité de survie à son environnement. Et je te relève.
Non, c'est intéressant parce que j'étais en train de réfléchir à, tu sais, à des acteurs masculins, des icônes masculines, on pourrait dire, oui, qui sont pas forcément beaux, c'est mais ça, qui ont du chien. Tu vois, par exemple, quand tu me disais nez, alors oui, tu as raison avec Cyrano, je sais pas pourquoi j'ai pensé de suite à Vincent Cassel.
Mais moi aussi. C'est impressionnant, il y a une sorte de télépathie, il y a de la télékinésie dans le coin, mais c'est parce que nous sommes sur les ondes, mais c'est vrai que Vincent Cassel, Christian Clavier peut-être, qui a un nez un peu plus aquilin et moins dessiné, mais c'est vrai que dans le cinéma, il y a des
Thierry Lhermitte aussi.
Thierry Lhermitte.
Et c'est pas forcément des DiCaprio ou des George Clooney qui arrivent en pole position.
Bien sûr.
Nasalement parlant.
C'est ça, oui. C'est ça. On crée une nouvelle catégorie ce soir entre nous.
Mais ouais, maintenant que tu le dis, ouais, effectivement, parce que bon, l'actu étant ce qu'elle est aujourd'hui, on a pas mal d'acteurs français qui se positionnent un petit peu, et c'est vrai que Vincent Cassel a ce truc-là, et Gainsbourg avait ce truc-là aussi.
Exactement, et c'est ce qu'on peut regrouper sous l'ombrage de cette expression d'avoir de la gueule, avoir du chien. Ces acteurs-là, on peut prendre un peu des temps d'avant, de que ça soit dans les Tontons Flageurs avec Lino Ventura, qui avait justement un nez aussi assez gros, que ces mecs-là avaient de la gueule, ils étaient pris pour ça, c'était pas des icônes de beauté pour autant, tu seras d'accord avec moi.
Oui, mais comme on est censé se placer de l'autre côté, on peut l'entendre par rapport à ses caractéristiques. Et maintenant, on arrive au nerf de la guerre, parce que c'est pas moi qui le dis, on est purement dans l'anatomie, la biologie, les caractères physiques. Alors, effectivement, ce caractère physique-là, alors, à part si vous, mesdames, vous avez, ce don de pouvoir localiser cette partie du corps à travers un pantalon, voilà, donc c'est-à-dire que, voilà, donc à part si vous avez des... Mais il faut vraiment enlever le pantalon pour le savoir. Donc, bien entendu, de quoi je parle ?
La meilleure
partie. Je parle, bien sûr, du pénis. Voilà, donc effectivement, le pénis... Et l'attrait est une des caractéristiques, si ce n'est au final la caractéristique, de la virilité. Et c'est aussi la grosse problématique des hommes depuis tout temps. Voilà. Donc c'est-à-dire que le pénis, la taille, non, c'est pas tellement le pénis, c'est la taille du pénis qui est sujet à débat. Et qui, les trois quarts du temps, en fait, est une problématique mal vécue par des générations et des générations d'hommes, que ça soit dans les vestiaires au collège, dans les vestiaires au lycée, à la salle de sport. Donc effectivement, même, je vais même vous dire, je l'ai pu le constater dans des festivals, notamment comme le Hellfest que j'ai fait par 6 fois.
Faut vraiment que j'aille au Hellfest.
C'est très intéressant sociologiquement de voir des bandes de gens dans des pissotières.
Oui, moi, avec une pissotière d'écart.
Voilà, et je compare ça un petit peu à, vu que c'est l'été, quand vous installez votre parasol et vos rabanes sur la plage, où vous avez l'impression que vous avez un microcosme de sécurité, c'est-à-dire cette zone vous appartient, alors que bon, la plage vous appartient pas.
Alors qu'on sait très bien que les gamins des Espagnols vont tout ravager sur leur passage.
Et effectivement, des bandes de gars à la pissotière, c'est un peu ça, c'est des zones de sécurité, tous les 50 cm à peu près, et tout le monde regarde plus ou moins tout droit.
C'est vrai.
Ou en haut, jamais sur les côtés.
Absolument. Voilà. C'est ça ce qui est beau dans la pudeur masculine quand même. C'est que c'est pas écrit dans les conventions de Genève, mais tout le monde le sait à peu près. Hein.
Donc, et c'est bien aussi par rapport à, tu vois, en traitant, et je trouve que c'est bien de traiter ce sujet homme et virilité, et de parler de pénis, c'est important, parce qu'on va peut-être aussi débunker certaines choses. Donc voilà. Donc, comme tu l'as dit, on fait le taf, Donc, et je vous donne une anecdote. Donc, je lui fais une petite dédicace, une amie à moi qui m'a appelé ce matin en me disant putain, voilà, j'ai eu le seum du dimanche. Voilà, voilà. Ça, je vous le dis, si vous êtes célibataire, vous connaissez ce moment du dimanche. On a tous plus ou moins le seum à un moment donné. Et je lui dis, c'est rigolo, je lui dis, parce que au moment où tu m'appelles, je suis en train de chercher en fait la taille moyenne du pénis masculin, d'avoir la dernière source 2023. Voilà, donc du coup ça lui a donné un petit moment de joie, je pense, à l'instant T, et donc je vous partage le fruit de ses recherches. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, voilà, parce que c'est ça aussi, c'est ça qui est important avec les moyennes, parce que il y a une légende urbaine qui veut que plus son pénis est grand et plus le plaisir sera grand. Donc on va pas se mentir, il faut quand même qu'il y ait une taille minimum. Voilà, donc sachez quand même, messieurs, parce que là je m'adresse à messieurs, mesdames, je pense que vous le savez, mais on va quand même le dire, il faut une taille moyenne de 8 cm pour qu'une femme ait du plaisir. C'est-à-dire que 8 cm, c'est la taille minimum, voilà, quand on est dans le vagin féminin, pour que quelque chose se procure, et là, que du plaisir soit procuré. Et là, je vois déjà des hordes de gens dire « Oui, mais le plaisir féminin, ce n'est pas que le vagin !» Alors. Je vais vous expliquer un truc. Oui, la pénétration n'est pas, c'est pas la seule zone du plaisir, mais ce qui est beau avec le sexe féminin, c'est que c'est plein de ramifications et plein de zones qui sont reliées. Donc, vous pouvez tourner le problème comme vous voulez. Donc, l'histoire de « je suis plutôt clitoridienne, moi plutôt vaginale », moi, je dirais plutôt que tu es clitoridienne à défaut d'avoir connu l'orgasme vaginal, et tu es plutôt vaginale à défaut d'avoir connu l'orgasme clitoridien, et ça veut dire que les deux sont intimement liés et que tu peux avoir des orgasmes avec les deux.
C'est vrai, incroyable. C'est peu de temps, tellement d'expérience. Et là, on a même entendu des vers se casser chez nos auditeurs, mais vous inquiétez pas, on a la contre-statistique.
Donc, le côté « je suis vaginal plutôt que clitoridienne », c'est des conneries. C'est une légende urbaine. C'est ça qui est beau dans la vie aussi, c'est que
on est tout.
La vie est bien faite, on est tous fabriqués, en tout cas les femmes sont toutes fabriquées de la même manière, avec leurs petites nuances, parce que bien entendu, une aimera qu'on l'embrasse plutôt dans le cou, l'autre, et attention, et ce que je vais vous dire est vrai, il y en a qui préfèrent qu'on les embrasse à l'intérieur de l'oreille. Donc ça, c'est sourcé. Voilà. Donc il y a chacun à ses disparités, mais là où tout le monde se met d'accord, c'est qu'au final, ça marche de la même manière. Voilà. Donc effectivement, 8 cm, c'est la taille minimum requise pour qu'une femme puisse accéder à un plaisir vaginal. Voilà. Donc là, je rejoins la moyenne, c'est-à-dire que la moyenne mondiale d'un pénis au repos, c'est de 9 cm.
Déjà, voilà. On est bien.
Donc, ça veut dire que techniquement...
La nature est bien faite.
Bon, faudra qu'il se dresse quand même, si t'as compris l'image. Mais ça veut dire que, pour les auditeurs qui seraient un petit peu complexés ou qui se poseraient des questions là-dessus, vous avez, là, ce que je vous dis, c'est vraiment la base de la base. Je veux dire, c'est pas moi qui l'invente. Je veux dire, ça, c'est quantifié, mesuré.
Oui,
voilà.
Comment il y a des gens qui sont sacrifiés pour la science, c'est
voilà.
Très bien.
Donc, 9 cm... Alors, bien entendu, comme c'est une moyenne, ça va aller, bien entendu, du gars qui a un 15 cm au repos à celui qui a un 4 cm au repos. Donc, voilà. Mais la moyenne, c'est 9. Et en érection, la moyenne est de 13 cm. Voilà. Et je me suis permis aussi de rajouter, parce que voilà, je m'adresse aussi aux auditeurs, porno oblige, tout le monde a plus ou moins les mêmes refs. Voilà. Donc, celui-là, tu vois, on parlait de génération Z, Y, il y en a un qui a traversé toutes les générations et qui continue. Et au sens propre, comme au figuré, c'est Rocosi Freddy.
C'est vrai.
Voilà, Rocosi Freddy, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il culmine qu'à 21 cm. Voilà.
Ça va.
Non, mais je veux dire, n'oubliez jamais, pour ceux et celles qui sont tombés sur des pornos, qu'il y a un objectif, tout est mis en scène pour qu'on ait l'impression que le mec a un braquemart de 50 cm. Donc ça reste un 21 cm. Voilà. Donc effectivement, j'avais dit en off à Hyperion que voilà, moi je connais la taille du mien. Alors pourquoi je connais la taille du mien ? Parce que nous les mecs, on est cons. Voilà, en tout cas quand on est jeune, on mesure, on compare. C'est à peu près comme ça.
C'est
voilà.
Pour les besoins de la recherche.
Voilà,
évidemment.
C'est pour les besoins de la recherche. Donc effectivement, je ne suis ni Rocco ni la moyenne. Je suis entre les deux. C'est bien
ça qui est beau, tout comme mesdames, vous êtes toutes uniques, nous sommes aussi tous uniques.
Effectivement, voilà, on se permet une petite parenthèse, parce que tout le problème des relations hommes-femmes aujourd'hui, quand ça commence dans la chambre à coucher, sont liés au pénis. Et y a vraiment aussi un côté que j'ai pu relever, moi, je vais parler un petit peu de mon expérience, avec des femmes qui seraient plutôt castratrices, et qui répétait généralement, parce que ça c'est quand même un... Tu vois, ça, je vais t'en parler, Hyperion, ça c'était un fait notable. Et, ces femmes-là, qui ont côtoyé ma vie, ont généralement mis à chaque fois, dans leur phrase, hein, qui était censée piquer, le mot couille, le mot burne, et je crois que leur rêve
ça, c'est dur.
Intérieur était peut-être d'avoir un pénis. Voilà, parce que, voilà, il y a... Et c'est vrai que...
Vas-y. Désormais, c'est possible.
Oui, désormais, c'est possible, mais effectivement, il y avait... Je sais que chez certains types de femmes qui sont dans ce style-là, elles sont omnibulées par la verge, et par la verge masculine, et ce que je peux relayer aussi comme info, c'est que, généralement, c'était pas les meilleurs au lit. Voilà, aussi. Donc, et qui était plutôt sur un acte vraiment de pénétration et pas du tout dans les préliminaires et dans les à côté, etc. Donc il y avait une espèce de, bon, on va pas rentrer dans des théories freudiennes.
Oui, de transposition entre le rôle, le genre, le sexe, tous les qualificatifs.
Voilà. Et généralement, ça va plaire aux auditrices, je sais qu'elles aiment bien ça. Et généralement, en termes de position, elles étaient plutôt en mode Amazon au-dessus. Et ça, c'est quand même relayé avec l'expérience. Hein. Voilà. Donc, tu vois, il y a peut-être un côté de rôle de domination, dominant. Donc, elle étant plus dominante, donc étant plus portée à vouloir avoir les couilles en lieu et place d'eux. Donc, voilà. Petite parenthèse refermée.
Ça reste appréciable.
Voilà. Donc, je sens que ce podcast, ça va être du grand Mendes.
Ça va être du grand Mendes. Hein. Attention, accrochez-vous à votre siège.
Donc, voilà pour ce qui est des caractéristiques. Et c'est vrai que... Ce problème, on va pas mettre un problème sociétaire, mais c'est vrai que cette préoccupation de la taille du pénis liée au plaisir féminin, alors que le plaisir féminin, ça je l'avais déjà dit dans le précédent épisode, c'est tout un jeu de préliminaires qui ne sont pas les préliminaires comme on peut l'entendre, mais qui est une discussion, qui est la préparation dans une soirée, qui est
plutôt toutes les attentions. Construire la disposition,
voilà,
de madame.
Qui est plutôt intellectuelle. Par expérience, c'est pas un problème de taille, en fait. Quand on est dans la moyenne, entre guillemets, je pense pas que ça soit un problème de taille. Voilà. Donc c'était bien aussi pour vous, messieurs, que vous entendiez ça. Et... Vas-y.
C'était comme on disait dans nos belles lettres françaises, c'est le fait d'être disposé ou indisposé. C'est être dans une disposition mentale pour tout ça, quoi. C'est-à-dire des bons mots, des bons touchers, des bonnes caresses, selon le sens qui vous éveille.
C'est beau, je suis content de t'avoir hyper. Je sais que t'allais
plaisir.
J'ai presque envie de te faire un petit lien avec la culture française. Je savais que t'amènerais les mots bleus à l'intérieur de ce podcast.
C'est tout à fait mon genre. Et en fait, je vais faire que des petites irruptions comme ça avec un plaisir.
Oui, surtout quand on parle de verge et de pénis, c'est important de faire ce genre de saillie verbale. En deuxième définition de la virilité, on trouve capacité d'engendrer et vigueur sexuelle. Donc tu vois, j'ai bien fait le lien aussi avec ça, parce que qui dit, en termes de préoccupation masculine, qui dit taille de pénis, dit maintien d'érection, dit puissance ou impuissance. Voilà. Donc forcément, voilà tout le schisme. Alors je sais que pas en opposition, comme c'est un podcast miroir, vous mesdames, vous vous préoccupez plutôt de la taille de vos attributs mammaires. Et ben voilà, il y a les mêmes questionnements aussi de l'autre côté, sauf qu'il y a une dragée supérieure. C'est-à-dire que même si nous n'enfantons pas, nous sommes quand même à la base du processus. Et c'est vrai que pour les hommes qui ont des problèmes de fertilité, arrive vite la notion d'impuissance et du coup, forcément, d'une baisse de virilité. Voilà. Donc, c'était bien de le sourcer, ça aussi. Voilà. Et en troisième position, la virilité est synonyme d'énergie et de courage. Voilà. Tout parce qu'il fait. il en faut du courage, mesdames, pour que le mât se dresse à tout
vrai.
Moment.
C'est vrai, prenez le large, mes amis, une fois de plus vers l'inconnu. Mais c'est vrai, il en faut du courage et de la virilité. Et c'est là qu'on aborde la partie symbolique. Vous me connaissez, ça fait deux fois que je passe sur le podcast. Je suis arrivé avec mes sources, ce soit un peu de biologie, d'évolutionnisme. Donc je vais vous décrire un peu tout ça. Donc c'est un peu la... Je vais essayer de rendre scientifique tout ça. Et la virilité aussi peut se définir comme un indicateur de survie. Donc un indicateur de survie, il se croit dans un truc de survivant, on va faire des... Pas du tout, on parle pas de bunker ni de boîte de conserve. Donc la virilité, la masculinité, c'est un signe extérieur de capacité de survie, comme justement... Quand on est lâché dans la nature, on a besoin d'un corps athlétique, d'endurance, on a besoin aussi, par exemple, on en avait déjà parlé dans le premier épisode où j'intervenais, de, effectivement, par exemple, la symétrie du visage et certaines dispositions, on parlait du nez tout à l'heure, et du menton, sont aussi des signes, en fait, de validité, de viabilité à l'environnement et de survie par un taux de testostérone élevé. Donc c'est quelque chose qui est assez recherché. Aussi des indicateurs de survie, on va plus parler du comportement du quotidien. Hein.
Ça serait bien que tu en profites pour définir, parce qu'on y viendra, ouais. La testostérone, qui est le mot-clé aujourd'hui. Hein.
Oui, voilà. La testostérone, le mot-clé, on en mange à toutes les sauces, et c'est un produit, c'est de la chimie qui est contenue dans les molécules, dans notre ADN, qui se mesure en nanogrammes par mol, si vous voulez. Et en fait, c'est notre, tout comme les femmes, vous avez le... Je permets, aide-moi.
Oui,
les hormones féminines. C'est les...
Je l'ai perdu.
Oui, je l'ai perdu. Je suis désolé. On est sur l'épisode des hommes. Excusez-moi, mesdames.
Et oui, c'est pour ça qu'on n'est pas capable de parler des femmes.
C'est vrai. On est monotache.
On est monotache.
Donc la testostérone, c'est l'hormone des hommes. Donc c'est ce qui va un peu infuser toutes ces capacités de production de pilosité, production des systèmes immunitaires, et aussi capacité de survie dans son environnement. Donc par exemple la symétrie faciale, et c'est la résistance aux maladies. Parce que en fait, si on fait un peu d'histoire, voilà, je vous parle de choses un peu rébarbatives. C'est que, si vous voulez, dans l'ancien temps, on était assuré de manière instinctive vers des personnes qui avaient une capacité à fournir les meilleurs gènes pour que votre descendance, mesdames, puisse survivre. Donc, c'était l'homme le plus fort, l'homme le plus... qui avait le visage...
Œstrogène.
Œstrogène, merci. Heureusement, vous voyez, on fait le taf, on va chercher les sources en direct.
Mais je l'avais dit en toujours un précédent, mais du coup, voilà, comme on est binaire...
Comme on est binaire, on a fait abstraction.
Mais c'était bien que tu parles un peu de testostérone, parce que ça embrayera sur la deuxième partie.
Exactement, hein, c'est sur un point de vue moléculaire, c'est pas forcément ce qui nous intéressera le plus, mais c'est quand même un peu à l'origine de tout ça. Et la testostérone va aussi avoir des impacts, donc là, je parle sous le contrôle de nos amis médecins, nos amis sexologues, nos amis aussi biologiste.
Bon, après, toi, tu t'emballes un peu, hein, parce que tu t'as dit que c'est nos amis, ils m'ont jamais contacté, mais pourquoi pas, hein, pourquoi
mais,
pas.
Mais bien sûr, mais on peut même faire un appel à une intervention, ça peut être toujours intéressant pour nos ouailles.
Exactement, j'en appelle à toi, confrère, ami sexologue qui est sur la plage, contacte-nous. Donc voilà, c'est avec grand plaisir.
Contacte-nous, envoie-nous un petit MP Instagram, on sera ravis d'y répondre. Et donc, c'est un peu l'indicateur à testostérone de tout ce qui est virilité, de aussi capacité sexuelle, de survie. Et aussi, pour embrayer sur une seconde partie, donc c'est aussi un vecteur d'animalité dans un monde castré. Donc là, on est vraiment sur un rôle sociologique symbolique. Hein. Vous accrochez pas vos wagons en disant « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est pas du tout sourcé. » Non, c'est vrai. Ça a été sourcé par l'observation de tous nos amis et de toute la nature, et quelques psychologues s'y sont risqués en affrontant les levées de boucliers de nos chers amis les féministes. On vous embrasse, ou pas.
Ou pas, donc
c'est en fait, on vit dans un monde de plus en plus cérébral, donc voilà, dans un monde de révolution industrielle, on n'est plus en contact, après la révolution industrielle, on n'est plus en contact avec la nature, le vivant, on n'est plus dans les rythmes un peu naturels, vivre au rythme du coucher et au lever du soleil, donc on a un peu perdu pied. Perdu pied comment ? On bosse devant des ordi, on bosse par beaucoup d'abstraction. Et comment, en fait, et c'est un vecteur d'animalité, c'est être capable de garder ce rôle d'homme, de pas totalement être anesthésié par nos écrans, par les injonctions des médias. Et où est-ce que je veux en venir ? C'est que, par exemple, ça se manifeste comme le bon plaisir, coupable ou pas, ou assumé, de regarder un bon Michael Bay, de regarder un bon film. Moi, par exemple, j'adore me regarder un Transformers.
Qui est l'équivalent de la testo pelliculée.
C'est la testo pelliculée, exactement. Du bon boom boom et du bon...
Ça t'éclate aux yeux, tu sais.
Mais ça m'éclate aux yeux, c'est un plaisir.
L'écran, il coule, tu sais.
C'est ça, c'est comme quand tu manges une bonne tarte aux fraises et que tu découvres les saveurs se décanter. Comme ça, là, c'est pareil. Il y a du boum boum, il y a l'explosion. Fast and Furious, c'est génial. C'est une reconnexion avec ton animalité. Et je pense, là, on vous invitera à réagir, mesdames, que vous aussi vous le ressentez, que vous aimez bien un mec qui soit tout en nuance, évidemment, on parle pas de binaire, mais qui soit aussi vecteur.
Et n'oublie pas messieurs aussi. Et n'oublie pas messieurs.
Et messieurs, bien sûr. Et messieurs, parce que, bien sûr, tous les goûts sont permis, on est ouvert d'esprit, on n'est pas des gens bas du front. Que justement, toute cette animalité est recherchée par vous, mesdames, et nous, messieurs, pour se reconnaître entre nous. Vous avez tous entendu, mesdames ou messieurs, ce besoin de... Enfin, non, ce soir entre potes. Ah non, ça, c'est week-end de mecs. Vous allez faire quoi? Bon, on va boire, on va discuter, on va raconter des conneries, on va regarder des films de bois.
Oui, bon, on va parler de ces merdes hein, actuelles, hein. On va en parler.
Et c'est ça. Et donc, c'était ma deuxième définition de l'animalité. Et aussi, pour terminer sur cette petite partie, je te redonnerai la perche. C'est les archétypes masculins. Ok, waouh, les archétypes masculins. On a tous lu Freud.
Avant que tu partes sur les archétypes, je bien veux sûr. Bien qu'on fasse, histoire qu'on une structure incise. un peu cet épisode. C'est vrai. L'impression que ça soit. Qui est quand même, tu vois, on se dit, putain, ils ont fait le taf. Alors, t'as fait le taf.
C'est vrai.
On va. Je vais juste rajouter un truc sur le côté animal, donc de ce que tu viens de donner. C'est vrai que. Alors, on peut définir voilà, ce qu'est un homme voilà, visuellement, etc. Oui. Mais c'est bien aussi de comprendre quelle est la fonction et revenir à la base de tout. Donc, le côté animal est intéressant parce que si on repart du départ, voilà, si on repart du début plutôt, ça sera mieux comme phrase. Oui, n'oubliez pas qu'on n'est pas en train de lire un texte. Hein, donc, on est en full impro. C'est ça qui est intéressant avec l'exercice du podcast. C'est que... dans les générations précédentes, hein, si on remonte, etc., l'homme, à la base, est un chasseur. L'homme chasse. C'est comme ça, vous pouvez me le tourner comme vous voulez. L'homme chasse. Et comme l'homme chasse, donc d'où vient la testostérone, etc., ce rituel de la chasse est à tous les niveaux, en fait. À la base, l'espérance de vie étant plus faible, il fallait que l'homme soit agile, robuste, et qu'il ait cette notion de conquête pour pouvoir croître et multiplier de par le foyer qu'il avait mis en place, mais surtout le protéger aussi. Voilà.
Bien sûr, et ce dépassement de soi aussi, parce qu'on peut, on n'est pas tous à même, je pense, d'aller se farcir un mammouth, hein, ou alors on va acheter du steak haché en supermarché comme tout le monde, mais à cette époque, c'est vrai, il fallait quand même ce genre de qualification.
Donc effectivement, pour bien comprendre la virilité, en fait, la base de la virilité, et c'est ce qui est beau aussi dans l'évolution, en fait, voilà, dans ce qu'est l'humanité, dans ce qu'est l'homme et la femme, mais l'homme à la base, en fait, il est là pour conquérir quelque chose. Voilà. Que que ce soit une femme, ou que ce soit un foyer, ou que ce soit des denrées alimentaires, ou que ce soit en fait un territoire, il y a cette notion de conquête. Donc il faut bien garder ça en tête pour qu'on puisse après arriver au constat actuel. Voilà, je me permettais juste de raccrocher
un
petit peu.
Mais t'as tout à fait raison et t'aborder quelque chose que j'ai oublié sur mes notes. C'est effectivement, on lit pas un prompteur, on fait du direct, on fait du spectacle vivant. C'est que la virilité, quelque part, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on se laisse pas, on fait pas le pan, on fait pas la roue comme ça, des couleurs flashy pour dire regardez-moi, je suis beau, je suis fort. C'est qu'effectivement, c'est du fonctionnel pour aller chercher la ressource pour survivre, quoi, en fait. Hein. Parce que là. Comme dit Jeff Goldblum, oui. On ne peut pas le citer à tous les épisodes, la vie tourne toujours un chemin.
Exactement, et le but, c'est que la vie se perpétue. Voilà, donc c'est pour ça que je parle toujours de cette notion de transmission.
C'est vrai, donc, si tu me permets juste cette petite parenthèse,
vas-y.
La définition du vivant qu'ont les biologistes, donc c'est pas du tout métaphysique, hein, vous prenez pas le chou, c'est pas ésotérique, mais le vivant, c'est toutes les forces qui veulent la vie. Donc en fait, à travers nous, que ce soit les plantes, etc., ça va être une continuité du vivant. Donc c'est juste une petite précision.
Non, mais c'est important de remettre aussi, moi, parce que effectivement, même moi, en tant que consommateur d'autres podcasts ou de, on va dire sur ces mêmes sujets, que ça soit des œuvres littéraires ou autres, j'aime bien aussi comprendre d'où ça vient, de voilà, quel est le fonctionnement intrinsèque,
l'origine des choses, voilà. Le dessous des cartes.
Donc à nous aussi de le mettre en place. Donc allez, vas-y, envoie ta troisième définition.
Et ma troisième partie, sans spoil, les archétypes masculins. Donc les archétypes masculins, oui, on a déjà lu Freud, on a lu Lacan, on a lu Jung, ok, super.
Enfin, non, mais non. Toi, oui, mais je sais pas si nous auditeurs, on vous enjoint à le faire.
Oui, ouais. Oui, je lis des choses sur mon temps, mais j'ai une vie aussi. Et justement, ces archétypes-là, vous voyez, c'est un peu quels sont les archétypes de... Donc les archétypes, il faut savoir que c'est arché, ça vient de quelque chose d'ancien, et typo, c'est un type, une définition. Donc en fait, c'est des sous-catégories un peu symboliques, et c'est des choses qu'on a tous, hein. C'est pas vous êtes soit scorpion, soit bélier, c'est vous avez des dispositions de plus ça ou plus ça. Donc vous savez, comme archétype, il y a par exemple le conquérant. Donc là, on vient de le parler, c'est la personne qui va capter les ressources, faire la démarche, qui va mobiliser toute une structure logistique pour déployer une structure qui va permettre de subvenir aux besoins de sa famille, de ses amis. On va voir aussi l'acteur. L'acteur, ça sera moins de la virilité, mais ça sera plus être plusieurs personnes en une. Donc là, on reprend Albert Camus qui parle d'absurdité. En fait, l'acteur, c'est la personne qui a découvert le sens un peu absurde de la vie et qui va vouloir être plusieurs personnes dans sa propre vie. T'as aussi le guerrier. Donc là, c'est la personne qui va s'élever pour des grandes causes ou contre des choses ou qui va aller au combat, à la conquête. Que ça soit de manière figurée ou frontale. On a aussi l'aventurier, donc là, ça va être la découverte. Plutôt tendance à être solitaire, mais on n'est pas chez Psychologie Magazine. on reste dans la subtilité, l'abstrait, parce qu'évidemment, il y a des nuances de tout. Donc cet aventurier, il va chercher un peu l'aventure, la vie, pour ramener quelque part. Donc ça ne sera pas Indiana Jones qui a une vie de couple, une vie personnelle un peu désuète, un peu nulle. Parce qu'on n'est pas chez Hollywood, on fait plus dans la subtilité. Donc c'est l'aventurier, il va souvent ramener tout ce vécu, toute cette expérience de la vie, pour améliorer un peu son foyer, son cocon, son nid. Et après, on peut parler de magiciens, par exemple les créatifs, les gens qui sont un peu dans leur salle, qui aiment l'abstraction, les idées. Donc voilà, ces archétypes-là. Donc je voulais vous présenter de manière un peu succincte comme ça, pour pas trop décrire, parce que sinon la symbolique va prendre le pas sur toute notre description qui se veut un peu pédagogique et simple à comprendre, quoi.
Oui, et puis après, il faut voir ça comme des traits de caractère. Voilà, pu... Alors, c'est vrai, effectivement, c'est bien que tu l'aies fait. Je pense pas que je l'aurais fait, tu vois, de mettre ces archétypes-là. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, moi, d'amener d'autres personnes à venir converser avec moi et à participer au podcast. Parce qu'il y a aussi des traits de caractère féminin où on peut ranger dans des catégories. Effectivement, voilà, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Faut plutôt le voir comme mesdames, par exemple, ou messieurs,
une
par exemple.
Sur laquelle
vous
êtes,
des velléités, on va dire, un fil rouge qui vous définit, donc vous allez être plutôt dans cette catégorie-là ou autre. Donc ça, généralement, ça aide à mieux, on va dire, percevoir une personnalité.
Où vous situez, c'est un curseur, quoi.
Exactement. Donc là, on en arrive à la deuxième partie de ce podcast, de cet épisode-là, qui était... Donc dans la première partie, on a posé les bases. Alors, on a dit d'où ça venait, quelle était la virilité, quels sont les... On va dire les attraits, qu'est-ce qui est un homme. Et maintenant, on va faire le constat actuel qui est sociétaire. Alors, j'aime pas ce mot-là, mais c'est quand même le mot qu'il faut employer. Donc, bien entendu, comme d'habitude, voilà, Hyperion lui amènera plutôt des refs. Voilà, sourcé. Moi, ma source, c'est le réel. C'est le volume 4, on arpente le chemin. Donc bon, ça fait un moment que je l'arpente, le chemin, mais bon, là, c'est pour donner un petit peu les codes par rapport au lien de cause à effet avec le nom du volume que vous écoutez. Mais effectivement, moi, c'est mon expérience, ce que j'observe, la vraie vie, les conditions du réel. Donc, ça va pas. Voilà, donc ça, je vais le dire. L'homme moderne est en crise. Pourquoi il est en crise? Déjà, il suffit de capter un peu les signaux. C'est-à-dire que si on prend la presse écrite, qu'on prend les réseaux sociaux, qu'on prend les discussions que vous pouvez entendre à droite et à gauche, tout est question de masculinité, de virilité. Chez vous, mesdames, c'est « putain, j'arrive pas à trouver un mec, je comprends pas, voilà, c'est tous des fragiles, etc. » Et là, t'as tout un wagon de youtubeurs, influenceurs qui te parlent de testo en long, en large et en travers, c'est insupportable. Voilà.
Et on sait pas où donner de la tête, on sait pas où se situer, c'est le bordel.
C'est insupportable. Alors, c'est quoi les raisons? Voilà, on va donner les raisons du problème. Donc, moi, je vais m'inspirer de mon cas personnel et de ce que j'ai pu observer, qui est relayé aussi par d'autres cas autour de moi. Donc, moi, je vois deux causes fondamentales à la dégénérescence du rôle masculin aujourd'hui. Donc, la première, c'est une éducation féminisée, voilà, une éducation des hommes qui est féminisée. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire, alors, je vous vois arriver de suite, que oui, je ne suis pas en train de taper... l'éducation prodiguée par les mères célibataires. Elles font ce qu'elles peuvent, mais oui. En tout cas, ce qu'elles en font, c'est pas la bonne direction. Donc, éducation féminisée et la démission des pères. Alors, dans la démission des pères, Y a plein de choses dedans. Il y a soit le père absent, soit le père qui est présent mais qui est pas là, hein, parce que on peut être absent en étant là, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On peut être hors de son corps. Hein.
On en parle aussi du rôle insupportable d'Hollywood qui nous présente dans quasiment tous les couples et toutes les comédies, qui nous présente les pères comme des gens mollassons, débiles. Tu l'as remarqué ça un peu?
Alors je l'ai remarqué, mais après j'ai envie de te dire.
Il n'y a plus un père en balèze comme dans les années 2000, quoi.
C'est comme dans la musique. Ça dépend ce que t'écoutes, ça dépend ce que tu regardes.
C'est vrai.
Voilà. Et ça, j'y viendrai sur le rôle du cinéma, tu verras, j'y raccrocherai les wagons. Donc, effectivement, j'en ai déjà parlé dans le précédent épisode, ce que je dis là a déjà été dit par Bret Easton Ellis bien avant, et par Chuck Palahniuk, l'auteur du roman Fight Club, qui est à l'origine du bouquin, parce que c'est début des années 90. Donc, c'est quelque chose, si on regarde bien. Le film Fight Club, c'est 99. Donc, moi, je l'ai vu en salle. Hein. J'avais 19 piges, et c'est intéressant, parce que je l'ai vu avec mon père. On y reviendra. Wow. Donc, voilà.
Ça a dû donner des discussions intéressantes.
Exactement. Donc, le film, il a 24 ans. Et le roman, il a quasiment 34 ans. Donc, en fait, ce qui est dit là aujourd'hui n'est pas nouveau. C'était précurseur. Donc, effectivement, pourquoi je me permets de dire ça? Donc moi, je vais prendre mon cas de figure et voilà. Moi, dans mon cas de figure, qui sera dans mon bouquin, dans la deuxième partie, hein, qui s'appelle Voyage en Terre du Milieu, voilà, donc je vous tease un petit peu, parce que je suis là pour faire ma... je suis là pour faire mon petit commerce, c'est que moi, dans mon cas de figure, mes parents, ils sont encore ensemble. Ils ont toujours été ensemble, en fait.
Et c'est beau.
Mais, alors, je ne suis pas là pour faire un procès d'intention, parce qu'au final, je ne suis pas là non plus pour cracher dans la soupe. Moi, mes parents, matériellement, ils ont toujours été là. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, en fait. C'est-à-dire avec leur éducation, etc. Donc, mais par contre, ils n'ont jamais eu le recul nécessaire. Et parce que moi, je suis issu de la classe moyenne, et effectivement, eux étaient issus de la classe ouvrière, donc ils n'ont pas eu cette notion, cette volonté, à un moment donné, de s'instruire ou de s'enrichir ou de se poser les bonnes questions. Ils n'avaient pas le temps, en fait, pour ça. Ouais. Ou quand ils avaient le temps, ils cédaient à leur pente naturelle. Et quelle est cette pente? Moi, mon daron, à part avoir de temps en temps fait un peu de coercition sans discussion, parce que à un moment donné, fallait qu'il fasse un truc, c'est « tu fais pas ça !» Voilà, il n'y a pas d'explication, machin. Trois quarts du temps, il n'était pas là. Donc, moi, j'ai été élevé par un père qui cherchait l'amour de sa mère et qui passait tous les week-ends dans sa famille à essayer de courir après l'amour. En fait, j'ai été élevé par un petit garçon, en fait, dans un corps d'adulte. Voilà. Et à côté de ça, ma mère était une femme frustrée. Donc, du coup, ayant une grande sœur, elle m'a toujours vendu un truc sur la femme qui n'existe pas. Donc, moi, comment ça se passe au niveau de mon adolescence?
Éducation à la Disney.
Voilà. Comment ça se passe dans... Tu vois, tu parlais cinéma. Comment ça se passe dans mon adolescence? C'est pas anodin si j'écoute du métal et qu'à un moment donné... Donc, je fais un petit clin d'œil à mon podcast sur le cinéma de genre. C'est pas anodin ou si je m'éduque, entre guillemets, avec de l'actionneur bourrin des années 80 et en écoutant du métal. C'est pas anodin. Voilà. Donc... Parce que je vais chercher des figures masculines et là où elles sont, en fait. Parce que je les ai pas. Parce que je les ai pas, à un moment donné. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrive, je rentre dans la vie avec une idée de la femme qui est pas celle-là, en fait. Voilà. Donc, globalement, c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai une idée de la femme où il faut être un gentil garçon, entre guillemets, il faut bien la traiter, machin, tout ça.
Prince charmant.
Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ton vécu? C'est-à-dire que quand tu découvres ce qu'est réellement la femme et que tu découvres le marché des rencontres, mais putain, tu prends une claque monumentale dans ta gueule. Et moi, dans mon cas de figure, ça, je le creuserai un peu plus dans mes écrits, et j'ai déjà creusé dans les volumes précédents du podcast, c'est pas anodin si je me farcis de la névrosée, parce que c'est de l'or en barre, c'est-à-dire, je vais pouvoir lui faire mal, et il va être force de proposition à chaque fois. Voilà où elle est l'arnaque, hein, en fait. Voilà où elle est l'arnaque.
C'est vrai.
Donc voilà, moi je me permettais un petit peu déjà, par rapport à ces deux cas de figure, de parler de mon cas à moi, en fait. Donc voilà un petit peu pour le constat de ces deux choses. Maintenant, on va rajouter autre chose à l'intérieur pour que, messieurs, mesdames, vous compreniez bien pourquoi on en est là aujourd'hui sociétairement. À côté de ça, Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je viens de sourcer par exemple mon cas, et je suis pas le seul dans ce cas-là. Il y a des milliers d'hommes qui ont été élevés de cette manière, donc avec ce côté démission des pères et éducation féminisée, mais qui est biaisée en fait, à ce niveau-là. Donc de l'autre côté, on a eu, alors ça c'est une très bonne chose, je l'ai déjà dit, la libération de la femme. Voilà. Sauf que la libération de la femme, comme je l'ai raconté, autant pour certaines choses c'est vachement bien, autant pour d'autres c'est une arnaque, et du coup, on a une génération de meufs qui ont développé des caractères très hache, en fait, voilà, donc par rapport à la logistique, par rapport à la carrière, etc. Et donc, du coup, face à ça, en fait, donc le néo-féminisme et après le MeToo, ce qui fait que quand on sort d'une période comme le Covid, quand on va sortir d'une période comme le Covid, etc., qu'est-ce qu'on constate IRL? Parce que là, je te le dis, Hyperion, moi je sors régulièrement, je peux même citer des clubs toulousains comme la Voile Blanche, moi j'observe tel un sociologue, on a des paxons de gars dans un coin, en train de boire des coups,
qui n'ont
des wagons de meufs qui sont en train de regarder leur portable et qui comprennent pas pourquoi on les aborde pas, et voilà. Et on a alors, bien entendu qu'on a toujours un tiers d'hétéro-binaires bourrins, parce que ça a toujours existé, voilà, donc ça, il n'y a pas de souci, mais de manière générale, il y a maintenant une espèce d'incompréhension, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à communiquer, plus personne ne sait ce qu'il a à faire, voilà, à ce niveau-là. Ça, c'est un constat, après je rajouterai des choses à l'intérieur si tu veux intervenir.
C'est vrai, mais on ne sait plus aller voir les personnes qui nous plaisaient, on ne sait plus... Moi j'adore prendre l'exemple, tu le sais maintenant, prendre l'exemple de nos grands-parents, ce genre de truc. Comment ils faisaient dans la vie? C'est « Oh mon Dieu, il y a une femme qui m'a plu dans la rue, je vais essayer de trouver un petit stratagème pour aller lui voir. » Pour aller la voir, oui, bonsoir mademoiselle, connaîtrez-vous un bon bar pour aller, tu vois, ce genre de choses. Maintenant, les gens n'y vont plus, ils ont peur. Est-ce que c'est comme deux espèces qui ne se côtoient plus, qui ne savent plus comment ça se passe? Est-ce que c'est comme les moutons et les renards qui se côtoyaient, et en fait, on prend les renards pour des loups?
Mais parce qu'on les met en opposition.
On les met en opposition, c'est ça. Et en fait, comme mesdames, vous n'avez plus besoin de nous, bah nous, quel rôle on a? Bah en fait, on va prendre le rôle que vous nous avez laissé, c'est-à-dire le vôtre.
Mais c'est ça le fond du problème, tu vois, quand tu dis elles ont plus. Mais bien sûr qu'elles ont besoin, en fait. Parce que chacun, tu vois, des deux côtés, c'est pour ça que cet épisode est intéressant.
Ah oui.
Il n'y a aucun des deux qui fait ce qu'il a à faire, en fait. Voilà, moi je prends toujours cet exemple qui est très cinématographique, qui est le film Incassable avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson, où on voit un Bruce Willis,
oui.
Voilà, qui est au final intérieurement un super-héros, mais qui fait pas ce qu'il devrait faire pour des raisons X ou Y, en fait, voilà, notamment par rapport à sa femme, etc. Et du coup, en ne faisant pas ce qu'il doit faire, il perd à la fois sa femme, il n'est pas heureux, et il a un semblant de rédemption à la fin de l'épisode en acceptant qui il est, c'est-à-dire la force qu'il a, et il reconquiert sa femme par la même occasion. Donc, tu vois, c'est un film qui parle aussi de ça, en fait. Hein.
Et ça parle de ça, et puis, à part si vous êtes des psychopathes, abstenez-vous, mais en fait, faites votre devoir. Enfin, je sais pas, allez-y et montrez un peu votre rôle. N'écoutez pas les nanas complètement aliénées qui se donnent un rôle existentiel ou qui font juste ça pour un électorat. Faites le rôle de mec, faites le rôle de meuf, quoi. Oui. Parce que, en fait, si vous vivez dans votre monde intérieur et que vous devez avoir des personnes... À mon avis, vu les auditeurs de Chronique d'un Quadrat, vous devez avoir des vies intérieures très riches, mais la réalité, c'est aussi ce qu'on partage. Donc, en fait, ça... Je rebondis directement sur le film avec Bruce Willis. C'est... Enfin, faites votre truc et n'écoutez pas les chasseurs de sorcières, parce qu'il n'y a pas de sorcières à notre époque.
Mais, de toute manière, là on y viendra sur le pendant masculin du néo-féminisme, de toute façon je l'ai répété et je le maintiens, observez ces néo-féministes là, elles sont enragées pour une simple et bonne raison, c'est qu'elles sont névrosées. Et elles sont névrosées pourquoi?
Parce qu'elles plaisent à aucun mec.
Parce qu'elles plaisent à aucun mec et elles réfutent leur caractère même de femme, en fait, et elles sont en dichotomie. Voilà.
Déni du réel un peu, hein.
Mais c'est ça.
Qu'on regarde les... Alors, on va dire un truc qui va faire grincer des dents, mais c'est notre bon plaisir, hein, un Quadra. J'allais t'appeler par ton prénom. Mon cher Quadra, c'est que effectivement, bah, la plupart je parle des féministes enragées, hein, pas les. Moi, j'aime bien le féminisme à la Simone de Beauvoir. C'était quelque chose de noble à cette époque. Mais celle de maintenant, c'est clairement, c'est les nanas qui nous plaisent pas, en fait. On est d'accord.
Ah, mais de toute manière, on les regarde même pas. Donc,
pourquoi elles se mettent des cheveux bleus? C'est pour être regardées, alors qu'on va pas les voir.
Oui, mais tu vois, c'est toute la dichotomie du truc, quoi.
Mais fuyez, pauvre fou, on a trouvé un balrog, quoi. On va dans l'autre sens.
Mais c'est exactement ça. Donc, on a déjà ce premier cas de figure dont je viens de parler. À côté de ça, et on y viendra de pourquoi ce constat est là, parce qu'il y a une raison intrinsèque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Donc on a tout un wagon de mecs qui savent plus comment faire, et derrière ça, donc comme on le disait, il y a le néo-féminisme, et qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que, comme l'univers a horreur du vide, hein, voilà, c'est ça, émerge
une réaction,
une nouvelle armée de gars. Bon, alors là, ceux-là, ils régalent. Hein. Alors là, vraiment, moi je l'avais dit, et c'est pour ça que je l'introduis à ce moment-là, il y en aura pour tout le monde.
Il y en aura pour tout le monde, fais-vous du popcorn, parce que là, ça va être tout le monde. Croustillant.
Donc, on a défini ce qu'était la virilité, d'autres gars se sont penchés dessus, et se sont dit, putain, il y a un business à faire, et en plus, dans ce business de la virilité, on va pouvoir faire passer les pires idées qui n'ont rien à voir.
Si on peut faire un petit billet avec ça, c'est bien.
Mais si on peut faire un billet et vendre, parce qu'il y en a certains. Ouais, alors, tu vois, je vais t'en citer un.
Ouais, un e-book.
Moi, je vais vous le dire. Tu vois, tu parlais de Fast and Furious. Moi, je suis cinéphile. Oui, j'aime le film d'auteur. De temps en temps, j'aime bien me faire un Fast and Furious et c'est un peu un Big Mac.
Ouais.
Mais tu vois, dans la merde généralisée, il y en a un que j'aime bien, pas pour les bonnes raisons, tu vois, qui est Papacito. Tu vois, Papacito.
Ah, mais c'est génial. Parce que à part si t'es complètement débile, tu sais très bien que ça fait plaisir à entendre.
Quand il fait des saillies qui n'ont rien à voir, mais tu vois, le mec te parle de virilité et te vend une monarchie de droit divin.
Oui.
Mais voilà, et chacun va essayer de te vendre. Et ce qui est beau, c'est que tous ces gens-là sont expatriés. J'ai sourcé le truc. Tous ceux que je peux citer.
Papacito, il habite dans le sud de la France, mais c'est vrai
Papacito, il est en Espagne maintenant.
Ah bon ?
Ah, il est plus dans le sud de France. Oui, okay. Oui, je viens de te dire que j'écoutais ses podcasts.
Je ne les écoute pas.
C'est voilà, vrai. Donc, c'est tous des expats, tu sais, face au Charles de Gaulle, 39-45. Allez-vous battre !
C'est ça, c'est ça. Nous, la France, elle doit être comme ça, mais j'y habite plus. Super, mec.
Bon, alors, dans ceux qui ont voulu se faire un billet, on va prendre des mots, parce que, bien entendu, le néo-féminisme ayant pour souche avec le wokisme, l'Amérique du Nord.
La French Theory, c'est des théories françaises. Je peux faire une petite parenthèse.
Oui, alors tu m'as coupé dans mon truc, mais vas-y.
Ça marche, mais je sens qu'on va plus se revoir, mes amis. C'est en fait, c'est Deleuze, Derrida, Bourdieu, le cher Bourdieu, qui en fait ont exporté des théories qui ont été prises aux États-Unis. On appelait ça la French Theory, et comme tous les trucs toxiques, ça nous est revenu dans la gueule dans les années 2010.
Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Mais contrairement, tu vois, à la French Touch dans l'électro, tu vois, Daft Punk, on consomme de bien belles manières.
C'est très dur à écouter, ça.
Voilà, des deux côtés. Mais effectivement, ils ont pris, alors c'est un gloubi-boulga, donc de ce qu'ils viennent de dire, hein, c'est-à-dire de théories philosophico-foireuses.
Et c'est les Américains, c'est brut de décoffrage, ils n'ont pas pris la subtilité des mecs. Hein.
Oui, alors on va le définir. C'est-à-dire que cette communauté, après je dresserai un petit peu les sous-genres, est ce qu'on appelle des red pillers, donc la théorie de la red pill. Voilà. Donc la théorie de la red pill, elle vient d'où ? Donc elle vient de théories importées, donc de France vers les États-Unis, et on y rajoute aussi toute la vague des pick-up artistes qui est apparue au début des années 2000, donc avec notamment l'auteur de The Game, hein, voilà, Strauss.
Neil Strauss.
Voilà, donc voilà, des bandes de gars qui, à un moment donné, ont développé des théories, parce que ça s'adressait aux timides, à la base, hein, voilà. Donc des théories pour les timides, pour pouvoir emballer, pour pouvoir emballer une nuit, hein, parce que ça durait pas plus d'une nuit, hein, parce que généralement, c'était des gens qui avaient des techniques de tour de magie et des trucs et astuces, et une nana à peu près bien câblée, qu'elle se rendait compte que les trois quarts, ils étaient soit au chômage, soit ça tenait pas la route, soit
ils étaient très socialement bizarres.
Ben oui, ben de toute façon, je vais te dire un truc.
Ça,
on va pas se mentir. Tu vas dans un bar, tu débarques comme Mystery, hein, tu vois, par exemple, qui est dans les écrits.
Tu te fais dégager par le mec de l'entrée.
Non, c'est pas ça. C'est que tu débarques dans un bar et tu commences à faire des tours de magie à la con. C'est que déjà, enfin, moi je te le dis. T'as déjà un petit problème, voilà, où tu viens avec un chapeau disproportionné pour attirer l'œil, etc. Donc moi, ces livres-là, je les ai lus parce que ça me fait marrer.
Non, c'était génial à lire, c'était incroyable.
Voilà, donc du coup, ils ont commencé à poser les bases de tout ce qu'on retrouve aujourd'hui, en fait, à l'heure actuelle, 20 ans plus tard, par les coachs en séduction, qui va être, allez tiens, on va sortir des mots de merde, la kino escalation, tu vois. Donc, alors, le kino étant le geste que tu poses sur une femme, oui, pour lui procurer une sensation, et l'escalade dans les kinos. Donc voilà, plein de saloperies comme ça. Donc du coup, ça part de là, et puis après, on va rajouter de la théorie évolutionniste à l'intérieur, et va émerger, tu sais, tu secoues bien, voilà, tu secoues bien, et t'arrives à des grands traités philosophiques, ouais, où on te dit que, en fait, écoute bien, attention, secret révélé par la red pill, la femme est hypergame.
Non.
Voilà. Alors, j'avais déjà défini ce qu'était l'hypergamie, c'est-à-dire l'intérêt d'une femme pour des traits de caractère masculin qui vont être le charisme et tout ce qu'on a cité tout à l'heure sur le physique, et si en plus on va dire qu'il est reconnu dans son boulot et qu'il peut gagner de l'argent, et ben voilà, c'est ça l'hypergamie. Donc une femme va être intéressée par un homme avec un statut supérieur, mais en fait il n'y avait pas besoin de tout ce gloubi-boulga, c'est une certitude.
Mais clairement, c'est, en fait, il y a un effet d'annonce, il y a une sorte d'effet d'annonce. Comme quand on lit un média, en fait, qui nous vend un pot rose, mais alors que tout le monde le sait. Enfin, la femme est hypergame, je dis pas que tout le monde le sait, le terme, personne ne le sait. Mais en fait, la femme est intéressée par le grimper l'échelle sociale, un peu comme nous les hommes, peut-être. Et nous, ils nous vendent ça comme si c'était le complot qu'on vous a caché toute votre vie. Voilà. Les médecins les détestent.
Le grand secret. Donc dans cette théorie de la red pill, alors, faut... Alors, je le dis à chaque fois, ça me fait mal à mon Matrix, mais je vais quand même dérouler. Donc, la red pill reprend la pilule bleue, c'est-à-dire tu continues au pays des merveilles, et la pilule rouge, t'as la vérité. Donc, c'est pour ça qu'ils sont appelés les red pillers. Donc, et des bandes de gens qui ont rien compris à Matrix, hein, parce que Matrix étant la quadrilogie qui te parle d'une transition de genre. Hein. Donc, c'est quand même, quand on y réfléchit, c'est quand même quelque chose d'énorme.
C'est les frères ou les sœurs Wachowski, du coup?
Ben, c'est des frères qui sont devenus des sœurs. Et Matrix ne parle que de ça, de la transition du genre. Donc, c'est toujours très intéressant pour des types très conservateurs de prendre une théorie de transition pour parler d'une vérité. Voilà. Voilà, moi j'aime bien, j'aime bien. Donc, à l'intérieur, on va avoir plus ou moins 3 ou 4 mouvements, donc je vais parler. Alors déjà, nous avons les MGTOW. Donc, MGTOW, c'est pour Men Going Their Own Way. Donc, c'est-à-dire des hommes qui ont choisi de prendre leur propre direction. Alors, et tu vas voir, ça va te surprendre, parce que je vais citer, et d'ailleurs, je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, mais dans son dernier podcast, il disait que généralement, personne ne le citait, donc tout le monde lui pique des trucs et personne ne le cite.
Citons-le.
Donc, cher ami l'observateur, tu vois, j'ai prononcé ton blaze. Effectivement, en France, celui qui va propager cette théorie, en fait, MGTOW importée aux États-Unis, ça va être l'observateur. Et ben, contrairement à ce que vous pensez, c'est peut-être celui... qui dit le moins de conneries. Voilà. Après, je ne le rejoindrai pas parce qu'il est trop extrémiste sur sa vision de la femme. C'est-à-dire que, alors lui, la femme, si elle n'est pas là pour procréer, ça n'intéresse pas. Et dans les femmes,
moi non plus.
Et dans les femmes, ça le fera sourire. Et dans les femmes avec qui il veut procréer, ça sera soit une Ukrainienne, soit une Polonaise. Donc voilà,
c'est tant qu'à faire.
Tant qu'à faire, voilà, ça va être ça. Mais après, tout ce qui va amener derrière n'est pas dénué de bon sens. Mais trop extrémiste quand on part dans une direction. Voilà. Mais le point de départ est plutôt intéressant parce que dans cette théorie MGTOW, parce que voilà, je suis pas non plus là pour dire tout est pas bien, tout est de la merde. C'est comme en politique, de manière générale, il n'y a pas quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Il y a des bonnes idées un peu partout, des mauvaises idées un peu partout. Il y en a plus des mauvaises d'un côté que de l'autre, ou tu m'as compris. Donc, effectivement, à ce moment-là, notamment sur le MGTOW, qu'est-ce qu'il propose? Il propose, en fait, aux hommes de se recentrer sur une création de capitaux, qui vont être le charisme, le capital social et le capital financier. C'est-à-dire que, plutôt que de passer ton temps, en fait, quelque part, à courir après les femmes, si tu veux avoir des femmes, construis-toi, en fait, une dynamique globale. Donc, au final, si tu prends le principe... C'est pas complètement con.
Mais
c'est...
ils ont un peu là j'arrive comme un bourrin, mais ils ont réinventé la roue en fait, parce que c'est un peu va chercher une nana, faites des rencontres, hein, je veux dire, mais construisez-vous à côté, parce qu'il y a en fait ils trouvent l'autre extrême de les gens qui sont dans les pick-up artistes, ils vont courir après les nanas sans se développer eux-mêmes parce qu'ils vont investir beaucoup de temps, alors que lui te dit l'autre extrême, alors que c'est, enfin, je sais pas si tu me rejoins sur ce cas-là, mais c'est basique, enfin...
Enfin, c'est basique, mais à une heure, enfin, à un constat sociétaire où, comme je te dis, ce qu'ils disent là, quelque part, c'est ce que ton père aurait pu te dire, en fait. Mais ou qu'il ne t'a pas dit. Donc, ils ne font que prendre le relais. De toute façon, s'ils sont là...
Ça, c'est un business.
C'est un business. Il y a business et business. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu noter, dans cette communauté-là, j'ai pas dit que j'étais MGTOW, attention, dans cette communauté-là, ça vend très peu, au final. Voilà, je te le dis, il n'y a pas de... c'est soit t'écoutes, soit tu lis, mais il n'y a pas l'autre notion qu'on va retrouver ailleurs, en fait.
Mais alors, justement, faites attention à vous, quand même, on décomplexe les sujets complexes, et un sujet complexe, c'est... ça, c'est une mini-parenthèse sur ça, je rebondis, c'est cet argument. Ben, je suis du milieu de la publicité et du marketing, donc armez-vous contre ça. Cet argument qui vous dit « Attention, voici un secret que vos parents ne vous ont pas dit. Le grand secret qu'on ne vous a pas révélé. » Ça, c'est un truc qui est assez dangereux, parce qu'effectivement, peut-être que dans sa grande pudeur, votre père ne vous a pas dit ce genre de choses, parce que la peur d'homme, etc. Sauf que faites attention à ces gens-là qui vous vendent ce qu'aurait dû vous dire votre père, parce que si votre père ne vous l'a pas dit, c'est peut-être pour une bonne raison, au final.
Alors, bien entendu, petite parenthèse qui n'a rien à voir, magie des podcasts à enregistrer en journée l'été, vous aurez peut-être un son de travaux, donc vous remercierez les voisins de ma résidence.
C'est vrai, malheureusement, on n'a pas reçu de chèque de Kiloutou, mais...
Et effectivement. Donc oui, alors j'entends ce que tu dis de te méfier, mais moi, je le verrai pas comme ça. Moi, je pense, enfin, tu vois, moi qui suis dans l'éducation de ma fille, notamment, si dans mon expérience, j'arrive à voir quelque chose, voilà, qui est utile, je lui en parlerai.
Ouais,
voilà.
Tu le transmets, bien sûr.
Je le transmettrai. Donc, on va dire que dans ce qu'il raconte, on va dire dans 80%, notamment, tu vois, par exemple, je te parle de ce podcasteur-là, 80% de ce qu'il dit, c'est du bon sens. Après, les 20% supplémentaires vont être du spectacle, vont être de l'extrémisme sur une certaine direction.
Alors, je crachais juste sur le biais marketing, pas sur son propos, qui est d'ailleurs, tu m'as fait découvrir la chaîne, t'es assez intéressant au final.
Voilà, mais après, c'est peut-être les moins marketeux de tous.
Ouais.
Ensuite, autre mouvement, les plus dangereux. Voilà, parce que si tu vois, je parlais de 20% à l'extrême du MGTOW, tu as les incels. Oui. Donc, pour célibataires involontaires. Donc, les incels, leur point de départ, c'est le Canada. Voilà. Donc moi, je ne suis pas allé au Canada, donc je prends les informations telles qu'elles sont. Donc, si nous, en France, on trouve qu'il y a une inégalité sur le marché des rencontres, apparemment, chez eux, c'est encore pire.
Oui, parce que ce sont les femmes qui vont vers les hommes. Enfin, culturellement,
et
là-bas.
C'est pas tellement ça. C'est plutôt que l'incel part du principe que s'il n'a pas de femme, c'est parce que le jeu est biaisé d'avance, c'est-à-dire que c'est le giga-chad qui cumule toutes les femmes.
Victime.
Mais oui, c'est ça. Et donc, du coup, comme pour eux, ils ne peuvent rien faire, ça c'est ce qu'ils disent, comme pour eux, ils ne peuvent rien faire, et là, par contre, c'est, je veux dire, là, quand je l'aborde, quand je dis qu'ils sont dangereux, c'est effectif, c'est-à-dire qu'ils développent une haine des femmes et n'hésitent pas, parce que c'est ce qui s'est passé au Canada il y a quelques années, j'ai plus la date en tête, je crois que c'était il y a 2 ans, ils n'hésitent pas soit à se suicider, soit à faire des crimes de masse là où il y a des femmes. C'est pas des conneries ce que je dis. Hein.
Mais c'est déplorable et c'est très triste.
Ce qu'on appelle
mais
des féminicides.
D'un côté, ça suscite un peu le mépris de ma part, parce que c'est un peu, comme je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, mais il faut voir les films de la Grande Vague, hein. C'est le film Le Tatoué avec Jean Gabin et Christian Clavier, j'allais dire n'importe quoi, et Louis de Funès, et il lui disait « Mais monsieur, vous ne vivez pas, il n'y a que votre argent qui vit, vous ne vous vivez pas. » Et dans ce sens-là, c'est qu'en fait, la vie est un immense jeu, et il faut, en fait, si tu restes sur le bord du truc, tu participes pas au jeu, même si t'es nul, aux échecs, tu sais pas jouer, bah tu t'y mets parce que c'est cool, quoi. Parce que, en fait, pour moi, c'est de la... Désolé, hein, ça n'a pas de sens que je dis ça, ça mène à rien, mais pour moi, c'est de la résignation. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. C'est de la...
Ah mais oui, non, mais j'entends. Mais dis-toi que nous ne vivons pas au Canada. Nous ne savons pas comment sont gérées les choses.
C'est
en
vrai.
Tout cas, il y a une population, tu vois. Regarde, j'écoutais aussi, alors j'ai plus le nom de cette communauté, peut-être que tu l'auras. J'écoutais un podcast sur ce qui se passe au Japon aussi. Apparemment, il y a une génération de mecs.
Oui, les otaku.
Voilà.
Il y a une génération de mecs de chez eux,
qui ne sortent plus. Pas. Voilà. Et tu vois, on peut les comparer aux incels. C'est un peu le même. Bon, sauf que eux ne vont pas faire des féminicides. Eux, ils se laissent mourir ou ils ont décidé de sortir du jeu, en fait.
C'est vrai.
Complètement. Par, Alors, mais après, ça, c'est un contexte japonais qui est hyper compétitif aussi. Voilà.
Oui.
Donc, mais effectivement, de par le monde, ce qu'on traite, nous, on prend le contexte franco-français, mais il y a d'autres exemples, c'est bien de les donner. Et je vais rajouter, après, dans le gros des troupes, on va avoir ce qu'on appelle les mascus, les masculinistes. Hein, tu vois, par exemple, quand je cite Papacito, tu vas pouvoir avoir Valek aussi, qui est sur, sur YouTube, qui va être plutôt dans cette tendance-là. Et on pourrait... Alors lui, on donnera pas son nom, parce qu'il aime bien faire des procès, donc... le sociologue à lunettes, donc voilà, on va avoir toute une vague, et Léo des Philogynes qui serait plutôt nuancé. Qui est tendance masculin mais propre,
ils vont sur business, évidemment, ça on va pas, voilà, on découvre pas le pot aux roses, mais par contre ils sourcent les choses, et comme tu me connais un peu, j'aime bien, je regarde quelquefois ces émissions, parce qu'il a il est psychologue, il a un côté sourcé.
Mais c'est important, de toute manière, c'est comme
diversifier,
dans un choix politique, c'est important d'écouter tout ce que...
Et regarder tous les programmes.
Voilà, pour se faire une idée aussi, c'est pour ça que quand moi je traite de féminité et de virilité, quand par exemple je tombe à bras raccourcir sur Sandrine Rousseau, je le fais parce que j'ai déjà écouté ce qu'elle dit. C'est pas ouais, juste un délit de faciès, tu vois ce que je veux te dire.
Ah, oui.
J'ai écouté. Quand je parle de Pécresse, qui est, je vous le dis, mesdames, qui est la pire représentante, c'est la pire icône que vous pourriez avoir, parce que quand elle parle, elle croit même pas à ce qu'elle dit, en fait. Donc, je me base sur les discours, je les ai entendus. Donc...
Alors que c'est une très très bonne fonctionnaire, enfin. J'ai des sources qui disent qu'elle est extrêmement bonne techniquement, mais c'est pas une politicienne.
C'est pas l'icône féminine qu'il faut. Voilà.
Oui, oui.
Donc on a les masculins, et puis t'as aussi, parce que l'hétéro-binaire, faut bien qu'il se fasse un trou en termes de business, t'as l'ego muscu. Voilà, ouais. T'as l'ego muscu. Voilà, tout est muscu. Voilà, muscu, la prot, la muscu.
C'est vrai, la nouvelle religion.
Ah mais oui, c'est ça.
Le temple.
Ah oui, et ça, c'est un enfer. Donc, tous ces gens-là, donc notamment les gomuscu, les mascu, on va les retrouver sur YouTube, sur TikTok, et vont proposer, en fait, un espèce de simili-coaching. Voilà. C'est du simili-coaching avec des recettes et des solutions miracles clés en main.
Ben oui, je te résous les problèmes de belle-mère, je te résous les problèmes de ce que tu veux.
Toi, t'es gentil
vie.
Avec la belle-mère, c'est pas le premier truc qui arrive en tête de liste.
C'est
hein.
Vrai, c'est vrai. Ce qui arrive en tête de liste, c'est trouve-toi une nana.
Oui, mais où?
Mais sur Tinder? Non, ouais. Si, c'est ça.
Comment choper sur Tinder ma recette miracle?
Donc un environnement plutôt contrôlable, tu fais croire qu'il y a un système.
Et ça... C'est quand, parce que je l'ai regardé un petit peu à droite à gauche, c'est pas 20 000 vues, hein. C'est des millions de vues, hein, à chaque fois.
C'est tragique.
C'est tragique. Et à chaque fois, c'est des méthodes du PDF, voilà, qui reprend le même gloubi-boulga, hein, MGTOW, mascu, machin, avec du Bourdieu reformulé, de la red pill, etc., à 200 balles.
À 200 balles, c'est ça. Un livre blanc et la recette avec trois étapes. Ou plus, tu vois, comme un Maman Guérard, tu vois, genre une recette, t'as des ingrédients, etc. Alors qu'on parle de relations, quoi.
Et moi, pour avoir été loin dans... Parce que un de ses représentants qui était passé, du coup, sur Toulouse, je suis allé le voir en vrai, hein, pour juger sur place. Quand j'ai observé déjà les représentants de la gente masculine qui étaient avec moi, j'avais envie de me tirer une balle. c'était des timides boutonneux qui parlaient, ils étaient là, oui, alors, des théories de merde, hein.
Ouais.
Oui, j'espère qu'il va parler de la femme Lego, putain, j'étais là, si j'avais eu une grenade, je l'aurais jeté, tu sais, la femme Lego, tu vois,
ouais.
C'est que des théories comme ça, et tu te dis, mais on vit dans quel monde?
Mais c'est des geeks des relations, et malheureusement, c'est, en fait... C'est souvent ce sont des gens un peu scientifiques et j'ai de la peine pour eux parce que j'ai des potes qui étaient comme ça et moi j'aurais pu aussi être comme ça mais je veux dire c'est des gens en fait qui prennent les relations des choses très très abstraites très compliquées comme des choses scientifiques, c'est-à-dire tu appuies sur un bouton ça fait ça etc, c'est quelque chose de très logique, très linéaire, et en fait non, c'est des gens qui devraient s'aider par eux-mêmes mais qui en fait les gens qui devraient les aider, c'est leurs potes qui ont plus de confiance, qui, tu sais, qui vont parler aux meufs, etc. Et qui leur dit « Non, mec, tu t'y pas trop bien. » Mais par contre, ces mecs-là, il faut pas laisser tout seul parce que ça devient des robots de la drague ou des mecs qui sortent des théories à dormir dehors, tu vois.
Donc, au final, qu'est-ce qui se passe avec... parce que là, ce que je vous dis, ouais, je vais dire ce qui me rend fou aussi. Donc voilà, par exemple, t'es sur ton feed TikTok, algorithme oblige. Il suffit que t'en aies regardé un. Tu vois, après, l'algorithme, il se régénère et te propose que ça. Moi, ces mêmes gars-là, boutonneux, ont des chaînes TikTok et viennent m'expliquer à moi, 43 ans, alors qu'ils ont 20 piges, comment on gère un mariage.
C'est ça.
Tu sais quoi, là, si ta main elle peut traverser l'écran, t'as envie de mettre une belle gifle de maçon, tu sais, comme ils aiment bien mettre à Marseille. Là.
Ouais.
Une bonne baffe de maçon, là, tu sais, avec des gros doigts. T'as envie de ferme ta gueule, en fait.
C'est ça,
ferme
le mec gueule. Vient d'apprendre comment se raser, quoi.
Voilà, et t'en as, mais des milliers. Voilà, donc ils surfent sur ce truc-là. Donc, il y a une misère généralisée, il y a une misère sexuelle. Donc, j'ai déjà expliqué dans le podcast précédent. Donc, le but dans tout ça, c'est-à-dire que ces gens-là, sous prétexte de donner en fait, on va dire, le secret pour pouvoir pécho, entre guillemets, vont quand même être les vecteurs d'une haine des femmes. Voilà. Et à côté de ça, le néo-féminisme est vecteur d'une haine des hommes. Donc on se retrouve avec cette opposition. Et qui c'est qui est gagnant là-dedans ? C'est ni toi, ni moi, ni vous, mesdames, ni vous, messieurs. C'est nos gouvernements.
Et les marques,
parce que c'est un business model.
C'est vrai.
Voilà, c'est un business model. Donc, pourquoi on en est là ? Donc, voilà, donc il faut toujours se poser cette question-là. C'est pour ça que là, on fait le constat. Pourquoi on en est là ? C'est parce que c'est voulu. Voilà, tout ça est voulu.
Machiavel, divisé pour mieux régner.
C'est du pur marketing. On est dans une société capitaliste. Tout ça est voulu. Et alors, pourquoi c'est voulu ? C'est parce que ça permet de mieux gérer. Parce que si tu maintiens les gens en misère et en opposition, tu fais ce que tu veux, en fait.
Ils s'isolent et ça devient des segments de marché.
Mais exactement. Et vraiment, c'est pour ça que je voulais profiter, en fait, de cet épisode sur hommes et virilité pour dresser ce constat-là et dire que oui, tout est fait pour que l'homme contemporain soit castré. Voilà. Et alors, je vois déjà arriver toujours les mêmes personnes, donc c'est-à-dire soit les néo-féministes, hommes et femmes, parce qu'il y a aussi des hommes qui soutiennent cette théorie-là.
Les pires.
Voilà, qui vont dire que je dénonce les masculins, mais je suis un vilain masculin, etc. Pourquoi je parle de castration ? Parce qu'un homme castré, un homme maintenu en misère sexuelle est un homme qu'on peut amener là où on veut. Donc qu'est-ce qui se passe ? On est en train de dire aux hommes d'aujourd'hui, parce que c'est ça qu'il faut noter en fait là-dedans. C'est-à-dire qu'on est en train de dire aux hommes, moi j'ai noté, mais décidément il va faire beaucoup de travaux aujourd'hui, s'est lancé vraiment.
J'espère que ça sera beau.
Voilà, je pense que maintenant, vu que je fais beaucoup plus d'épisodes régulièrement, il va falloir que je mette
des disclaimers, des petits...
Excusez-moi, vous faites pas les travaux, on enregistre un podcast. Donc pourquoi cette chose-là, quelque part, elle est voulue par nos gouvernements et pour maintenir. C'est-à-dire que comment on maintient ? On va le dire, le point de départ, c'est, on va dire, voilà, tu es un vilain masculiniste parce que tu veux conquérir une femme, parce que tu veux l'aborder, parce que tu veux qu'elle soit jolie, parce que tu veux tout ça, ça c'est pas bien. Tu dois pas faire ça. Tu dois bien les traiter.
Ma bonne dame.
Voilà. Donc et du coup, si tu l'abordes de cette manière, c'est pas bien. Parce que regarde, aux États-Unis, il y a eu ce vilain producteur, il a fait plein de vilaines choses, tu es pareil que lui. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Par contre, on te propose une solution qui est la solution des timides.
On va faire signer un contrat en 3 pages avec paraphe à la fin de page.
Donc on te propose la chose suivante. Tu pourras les aborder mais sur un site où tu payeras. Voilà. Pour avoir accès, si elle le désire, c'est pouvoir parler à certaines femmes. Donc, tu passeras par ce biais-là. Donc ça, c'est important. Et il ne faut pas oublier non plus que pendant une époque, on t'a dit que faire l'amour, c'était pas beau, parce que tu pouvais avoir des maladies. Donc, on a un autre business model qui est derrière, qui est le business du préservatif, qui est le business de tout ça, en fait, voilà, de tout ce qu'il y a, qui est une industrie complète. Et ne t'inquiète pas. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à pécho, tu pourras quand même, si tu veux, aller sur des sites pornographique et pouvoir, on va dire,
te poignarder comme un démon.
Voilà, pouvoir évacuer toute cette énergie que tu as en toi, sans quitter chez toi. Voilà, et sans pouvoir aborder une femme. Et si tu veux vraiment parler à une femme, si tu te sens vraiment seul, parce qu'on n'a pas encore une IA pour toi, mon gars, tu pourras, si tu veux, leur donner de l'argent sur un OnlyFans.
Mais clairement, voilà. Clairement, pourquoi payer pour un truc qu'on pouvait avoir gratuitement ? Mais je rejoins Blanche Gardin qui nous disait qu'on est dans une société de ubérifier, quoi. C'est-à-dire que je bouffais, j'appuie sur un bouton et il y a un mec qui vient me livrer un McDo. J'ai envie de baiser. Là, je vais sur un site et je regarde la chose qui me plaît, quelles que soient les vôtres. Et du coup, ça peut arriver. C'est quelque chose de déplorable. Et pour reprendre un peu de hauteur, si tu me permets, une petite parenthèse avant de te redonner la main. En fait, le... Alors, pardonnez-moi, je me souviens plus qui disait ça, mais il me semble que c'était de la... Il me semble que c'était Ferdinand de Saussure. C'était un... C'est de la psychologie, des... psychologie de l'évolution et du langage. C'est quelqu'un qui disait qu'en fait, que notre réflexion est directement liée aux médias. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'avant, on réfléchissait comme les livres, c'est-à-dire on réfléchissait en séquence. Il y avait un raisonnement qui se suivait. Partie, chapitre, paragraphe, séquence, thématique. C'était logique, ça découlait. Alors que maintenant, on regarde des chaînes télé, télé en, en instantané, donc on passe de... On passe de la vache normande, la blonde normande, à si vous voulez, l'indice de la bourse du Nasdaq. Ou alors, on réfléchit en termes d'onglet, c'est-à-dire on peut gérer autant la soirée de vendredi qui va arriver, comme le prochain dossier à rendre pour notre manager, notre N plus 1, et ensuite ce genre de choses. Et où est-ce que je veux en venir par rapport à, là, par rapport à ça? C'est qu'en fait, les gens passent du coq à l'âne sans retrouver l'essentiel. Ils veulent, en fait, qu'on vive en canot, en onglet différent. C'est-à-dire, ok, tu as rencontré une nana... Au lieu de faire comme tout le monde et de sortir avec son groupe de potes, et que les amis les plus extravertis motivent notre ami un peu introverti, peut-être en lui servant un verre, il dit mais va la voir, elle te regarde, va la, elle te regarde, vas-y quoi, c'est ça la vie. Les gens nous disent ah ben non, mais en fait pour faire des rencontres il y a Tinder, ou sans citer aucune marque.
Pour non faire mais citer les marques, hein, Adopt ouais. Un mec, Apple, Fruits, il y en a un million.
C'est ça, elles sont à égalité parce qu'on les emmerde toutes. Donc citons ces marques là, par exemple, voilà, fais des rencontres. Tu vas sur tel site, va bouffer, tu vas sur Uber Eats, enfin fais des choses, on réfléchit, on veut nous enfermer dans des canaux.
Oui, et mais parce qu'on veut capitaliser et on a réussi aujourd'hui, on va dire que le capitalisme a réussi à s'insinuer dans ta chambre à coucher.
C'est vrai.
Et à faire du pognon.
Financiarisation de
sur le fait que tu baises ou pas.
C'est vrai. Maintenant, débat un peu politique, mais je pense que tu me rejoindras sur ça. Maintenant, c'est possible et c'est socialement acceptable qu'une nana loue son ventre pour des personnes qui peuvent pas avoir d'enfants. Ça, c'est déplorable. Mais ils vont financiariser tout et n'importe et tout le monde en fait.
Mais c'est ça. Donc, à côté de ça, si on, parce que le constat peut être déployé.
Oui.
Les pentes. Classique masculine existe toujours. Donc, alors, quelles sont les pentes classiques? Parce que avant tout ça, il y avait déjà une tendance,
ah oui.
Voilà, qui était bon. On a parlé de la timidité, alors, la notion du râteau. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans plein d'épisodes. Ben, je vais pas l'aborder parce que je vais prendre un râteau. Et donc,
oui.
Mais qu'est-ce qu'on s'en fout?
Quand on joue la perdre, ça fait partie du jeu, quoi.
Voilà. Donc. À côté de ça, voilà, moi, je vais te donner un constat qui est celui-là, qui est le mien aujourd'hui. Moi, quand je sors, je n'arrive plus. C'est d'une complexité de motiver des hommes pour sortir. Parce que, alors, déjà, quand ils sont en couple, alors ça, on va en parler aussi. Hein, ça, on va en parler. Ça, les mecs qui sont en couple, moi, je les adore en fait, hein, parce que moi, j'ai jamais été comme ça. Hein, et moi, je le précise, hein, j'étais marié deux fois, j'ai eu des relations longues, etc. Donc, et relations longues, c'est pas 3 ans. Hein. J'ai eu du 10 piges, du 5 piges, du 3 ans. Donc voilà. Moi, j'ai eu de la vraie relation longue. Putain, j'ai toujours bougé.
Bah ouais, mais ils sont plus royalistes que le roi, c'est-à-dire qu'ils veulent, c'est comme s'ils voulaient être les petits mecs parfaits pour leur nana, alors que enfin à mon avis, mesdames, réagissez en commentaire, mais à mon avis, mesdames voulaient un peu aussi avoir votre petit moment à vous, entre vous, entre copines, quoi, non?
Mais c'est ça, donc les mecs, de toute manière, donc pour cette catégorie de mecs, ils sont en couple, tu les vois plus?
Ouais.
Et le moment où tu les vois, c'est quand ils sont de nouveau célibataires, en
c'est
fait.
C'est ça, voilà. Oh mon dieu, insérer le prénom de votre ami sauvage apparaît et là tu te dis mec mais il fallait être là enfin voilà ça fait chier
ouais. Non mais c'est incroyable. Donc du coup les mecs qui sont en couple tu peux pas compter sur eux, souvent t'as des célibataires pour peu qu'ils soient dans la catégorie qu'on a citée, c'est-à-dire hashtag OnlyFans, porno machin, ils ont leur routine qui fait que ben finalement ça
pas besoin de sortir quoi.
Voilà, pas besoin de sortir, voilà, je fais comme ça. Donc effectivement on a ce truc là et moi de ce que je vois, parce que c'est que on a enlevé ça, j'ai parlé aussi d'une autre catégorie qui est plutôt la génération Z, qui est une génération, ben je suis désolé messieurs si vous êtes de la génération Z, mais 3/4 du temps c'est des fragiles.
Ouais.
Pourquoi? Parce qu'on leur a, si moi j'estime qu'on a tenté de me castrer, eux on leur a coupé les couilles. Pourquoi? Ouais. Parce que ce qu'on enlève à l'homme aujourd'hui de manière générale, c'est la notion de risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on écoute hein, cette génération-là, il faut faire attention, faut faire le tri sélectif, oh le climat ça va pas. Et attends, on continue. J'ai un peu bu, non, je vais pas prendre la voiture. Oh, mais putain, merde! Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de vous le dire.
Ouais.
Mais il va rien se passer. Mais tout est. Je prends l'avion, on va mourir. Je prends la voiture, on va mourir.
Mais c'est une névrose généralisée, ça, en fait. Tout risque est maximisé. Non, mec, redescends sur Terre. T'as bu deux verres, t'es en pleine capacité, en pleine position, tes moyens, légalement. Parce que la loi, hein, c'est important. On va rappeler la loi. Légalement, tu peux prendre la voiture pour rentrer chez toi. Genre, t'es pas tout à fait débile, quoi. Et les gens, en fait, se font couper les couilles. Mais laissez-vous pousser les couilles, les gars. Mais à votre avis, les Gen Z qui tenaient ce genre de discours, là, on va vous filer une petite gifle pour que vous vous réveillez, parce que là, il est temps de se réveiller. Mais pourquoi vous êtes célibataire, à votre avis? C'est, vous prenez pas de risque. Enfin, je citerai les visiteurs 2, fais ton rôle, petit homme, tu vois. Enfin, bouge.
Donc, dernière partie, parce qu'il va falloir le conclure, hein, cette idée de podcast, hein, vu qu'on a les travaux, on a tout aujourd'hui, c'est vrai, la chaleur, les travaux. Voilà, donc, les solutions. Voilà, parce que
mais alors, c'est Quadra, on fait quoi?
Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions? Donc, alors déjà, dans un premier temps, alors messieurs, si vous êtes sur la plage, là, vous avez pris votre plage privée, c'est bien, ça veut dire que déjà, si vous avez pris une plage privée, hein, vous êtes sur le haut du panier, vous avez pris, là, voilà, on se redresse. Voilà. Mesdames, vous pouvez aussi vous redresser, hein, voilà. Mais c'est plutôt pour messieurs. On arrête tout de suite, voilà, de lâcher des ronds sur les applis de rencontre. Sortez de là. C'est vous le vivier, c'est vous, en fait, on va dire, le panier percé. Arrêtez de payer, arrêtez d'acheter des likes, arrêtez d'acheter des charmes, arrêtez d'envoyer ça. Déjà, je l'avais déjà dit, elles sont très peu, voilà, vous êtes 1 million, donc déjà, retirez-vous de ça. Voilà. Arrêtez les applis de rencontre. Déjà, première chose. Donc, arrête les applis de rencontre. Deuxième chose, arrête de te branler. Voilà. Je vais plutôt préciser. Non. N'arrête pas de te branler pour faire hommage à Matthew McConaughey dans les Loups de Wall Street. Oui. Voilà. Mais
pour
plutôt,
lâcher la pression.
Arrête de te branler sur du porno. Arrête ça, oui, tout de suite. Voilà. Oui. Voilà. Donc
il y a
déjà
des études. Allez voir les études sur le porno et sur la sexualité.
Je t'invite à te poser la question du sentiment. Voilà. Parce que là, toi, tu le vois pas. Toi, tu vois le truc. Mais pose-toi la question quand même que t'es en train, quelque part. On va essayer, parce que j'ai dit des mots vulgaires. On va essayer. Tu es en train de faire un va-et-vient. On va dire sur ton outillage, en regardant un autre faire ce que t'aimerais faire. Donc je t'invite à réfléchir là-dessus.
Parle bien d'un écran.
Voilà, on parle bien d'un écran. Mais tu regardes l'autre le faire. Moi, j'ai envie de te dire, fais-le. Et parce que là, c'est la première étape à être le candle dans une relation libertine. Hein. Parce que c'est ce qui t'attend, hein, à un moment donné. Hein. Voilà. Ouais. C'est ce qui va t'attendre. Donc arrête le porno. Donc arrête les sites de rencontres.
Quitte ça.
Arrête. Les coachs, arrête de regarder ces cons. Ouais. Les coachs en séduction.
Et reconnecte-toi au réel, voilà, un peu.
Et pour ceux qui sont dans les bas-fonds là, à appeler ces mêmes coachs pour des études de cas, etc. Oh, je comprends pas. Il y a en fait déjà d'une, lui, il en sait pas plus que toi, parce, ouais, que s'il en savait, il aurait autre chose à branler que quelque part.
Il aurait une meuf surtout.
Il aurait une meuf surtout, ou même plusieurs, ou peu importe. Ouais. Mais comme je l'ai dit dans le précédent épisode, si ces gens-là avaient la recette miracle, hein, pour résoudre vos problèmes, ça serait même pas milliardaire. C'est-à-dire que l'éducation nationale aurait, oui, créé une matière,
bien sûr,
et ça serait enseigné.
Très juste.
Voilà, on est d'accord. Hein,
ouais, ouais, ouais.
Voilà. Je veux dire, tu vois, par exemple, on va prendre un autre exemple un peu plus glorieux. Quand Freud découvre quelque chose, hein, qui deviendra la psychanalyse, ouais, ça devient une discipline qui après est enseignée, etc. Donc moi, il me semble que la méthode, le PowerPoint à 200 balles de la rendre amoureuse, c'est un vrai titre, hein, en une semaine, ça sera pas enseigné, parce que, oui, ça n'existe pas.
Ça fait partie des trucs qui te disent lisez l'avenir à travers des cartes, quoi.
Donc voilà, donc enlève-toi de ça et arpente la vraie vie.
Ouais.
IRL, in real life. Oui.
In real life. Et je fais un embranchement par rapport à ça. Vous avez déjà entendu ce genre de slogan, mais putain, il faut réenchanter le quotidien. C'est-à-dire, je vais vous parler d'un truc qui s'est passé dans votre tête, vous les hommes un peu romantiques, un peu résistants par rapport au cynisme ambiant, et vous les nanas, je suis sûr que vous avez ressenti ça, c'est cet inconnu du coin de la rue. C'est, oh là là, je viens de croiser quelqu'un, je viens de croiser une nana, elle est tellement belle et tout, mais comment je peux aller lui parler, tu vois? Et chez vous, mesdames, c'est comment je peux faire, comment ce mec-là, il va se retourner? Ah bah, son pas s'éloigne, je le dépasse, je me retourne d'un regard furtif pour voir s'il va me remarquer, s'il va tenter quelque chose, il me regarde d'un air triste, il viendra jamais me parler. Et voilà, mesdames, messieurs, vous avez sûrement raté l'occasion de vivre une aventure merveilleuse. Et là, j'en fais des caisses, hein. Je suis dans la comédie romantique, mais c'est ça, en fait. C'est clairement ça. Pourquoi vous y allez pas? Pourquoi vous redonnez pas un peu de magie au lieu de payer des algorithmes, ce genre de trucs? Parce que la magie du quotidien, elle est pas dans le Seigneur des Anneaux. je suis un fan du Seigneur des Anneaux, tu le sais, mais elle est pas dans des films, quoi. La magie du quotidien, elle est dehors, elle est au coin de la rue. Vous pouvez trouver l'amour au coin de la rue, en tout bien, tout honneur, avec du respect, soyez pas débiles, évidemment, mais la vraie vie, quoi.
Mais et surtout que ça sera, parce que je me mets à la place des voilà, parce qu'on fait un podcast pour les hommes, hein, hommes et virilité, c'est que quand ils sont là sur les applis de rencontre, là ils envoient des trucs, ils ont pas de réponse, alors les mauvaises langues diront ah mais si t'en parles c'est que t'as pas eu de réponse toi aussi. Mmh. Bah oui, mais comme tout le monde,
évidemment, moi aussi j'en ai pas eu de réponse,
mais qu'est-ce que vous croyez, j'en ai eu des fois, j'en ai pas eu, mais j'y suis pas resté longtemps, hein. Moi j'ai toujours expliqué, hein. Moi j'ai fait l'appli de rencontre parce que j'étais dans le Covid. Et dans le Covid, je pouvais pas sortir. Bah donc, oui. À un moment donné, il fallait que je trouve une solution. Dès que j'ai pu sortir, comme un connard,
je me suis
fait injecter 3 doses, mais pas pour la théorie du vaccin. Hein.
Tout pareil.
Voilà. Donc c'était pour avoir une dynamique. Donc à un moment donné, quand on peut sortir, qu'est-ce qu'on fout sur son téléphone? Mais dites-vous bien que quand vous êtes là, vous avez dépensé, je sais pas moi, 20, 30 euros, j'en sais rien, 40 euros, à envoyer des likes à la même personne, etc., et qu'elle vous calcule pas, l'ego... Il pète, ça fait mal.
Bien sûr.
Ça fait mal, vous attendez le message, mais elle vous répondra jamais. Mais
même si tu, par exemple, si tu ressens rien quand tu sors dans le réel, quand tu vois une jolie nana qui te regarde, ou quand tu lui paies un verre, t'échanges des bribes de des banalités, des bribes de conversation, et que tu ressens rien, et que tu ressens plein de choses en te faisant tout un film sur Tinder, je veux pas faire le Cassandre, hashtag mythologie.
Fais le Cassandre.
Mais je veux pas faire le Cassandre, mais là, il faut se poser des questions. À mon avis, il faut aller consulter des spécialistes. Parce que des corrélations de ressentir des choses dans le virtuel et ressentir des choses dans le réel, je pense qu'il y a un. Alors, t'en penses quoi? Je pense qu'il y a un petit problème.
Ah, mais c'est ce qu'on appelle la dépendance affective. Oui. Donc, c'est-à-dire que autant je peux comprendre que du point de vue féminin, alors elles vont me dire, ah, mais non, mais on n'est pas dépendante affective. Non, je dis que du point de vue féminin, de par vos attraits, vous aimez bien avoir l'attention sur vous, donc redorer son ego sur un site de rencontre, ça permet de maintenir, pourquoi pas. Mais les hommes qui y sont et qui attendent après, c'est de la pure dépendance affective. Là où je voulais en venir, c'est que là où votre ego, il prend, mais comme les travaux que vous avez pu entendre, là, un coup de perceuse, si vous sortez, par exemple, un truc tout bête, dans un nightclub ou autre, les cartes sont redistribuées, c'est-à-dire que là, ce n'est pas juste votre message ou une photo qui fera la différence. Vous avez l'opportunité de passer devant tous les autres gars et de jouer votre va-tout à l'instant T, ça marche pas, tant pis.
Un petit éclair de génie, t'es...
Voilà.
T'es bien.
Mais là, à l'instant T, les cartes sont redistribuées et tout le monde a sa chance. Ouais. Voilà. Donc que ça soit dans un nightclub, que ça soit dans un bar, que ça soit dans une soirée entre amis, et on va pas se mentir, parce que tu disais pourquoi ils le font pas aussi, parce que toutes ces injonctions sociétaires qui sont là pour brider la prise de risque...
Mais oui.
Tu sais, tout le monde dit nos zob in job, mais moi je dis mes zob in job, pourquoi? Mais parce que
job,
c'est là où tu mets plus
stats,
de temps.
Les, voilà. Les stats de rencontre, regardez, alors ça je le tire pas de mon chapeau, hein, qui suis-je, mais les stats de rencontre, t'as 40%, il y a peut-être une petite marge d'erreur entre 36 et 40% des couples qui sont formés au travail, parce que tu passes énormément de temps, mais nos zob in job, mais ta gueule, ça, tu dis ça parce que tu baisses pas en fait, mais nos, bah si, c'est la vie, c'est partout. C'est pas parce que... surtout, on est en France. Aux États-Unis, c'est un monde assez puritain, c'est protestant, etc. Donc, eux, ils peuvent séparer. Ils ont une vision du monde complètement différente. Je vous pousse à lire les textes religieux ou alors juste à parler avec un Américain pour le comprendre. Mais en France, on est un pays latin. C'est le pays de la... On est très proche des Italiens, c'est le pays de la passion, de la vraie vie, tu vois. Donc, nos hobby jobs, si. Genre, tout le monde a déjà rencontré des... malheureusement... non, si, ça... Bref. Et alors...
Dis-moi Hyperion, oui, je te sens bégayer un peu sur la chose.
Alors changeons de sujet. Non, mais c'est pour dire que tout le monde a déjà eu des crushs au taf, tout le monde a peut-être sorti peut-être eu des relations. Mais parce que c'est dans notre nature.
Mais non, c'est pas ça la nature, c'est que il y a la théorie de l'enceinte close et le meilleur, tes capitaux sociaux, charismatiques, etc.
Top quand t'es au travail.
Comment tu peux les dérouler face à une femme, si ce n'est au travail en la côtoyant? C'est mais là qu'elle voit qui tu es.
Si t'es plutôt, confiant au taf et que tu commences à prendre du galon, même si tu débutes et que tu fais les choses bien, etc., c'est là qu'on voit c'est là qu'on voit ton potentiel. C'est-à-dire que c'est vrai que tu peux être sous ton meilleur jour.
Et oui, oui, parce que ce que vous savez pas là, il a du mal là. C'est parce que là, il fait très très chaud. Oui. Et voilà.
Non, mais je repensais une expérience privée.
On fait le taf.
Je repensais une expérience privée.
Oui, non, mais moi aussi, bien entendu. Oui. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'on a une différence d'âge avec Hyperion. Voilà, je vais vous donner moi toutes les femmes qui ont occupé ma vie pendant un long moment ne viennent pas d'un site de rencontre. Donc, la mère de ma fille, ça s'est fait en soirée via des collègues qui en étaient à l'université.
Des groupes étendus, quoi.
Soirée universitaire, ouais. Boîte de nuit, machin, voilà, ok. Ça fait 10 années, quoi, voilà. Ensuite, derrière, par un cercle d'amis, 5 années. Ensuite, au taf, 3 ans, voilà. Et après... Après, c'est comme ça, hein, on est amoureux, on n'est pas amoureux, ça va être genre le reste de la vie. C'est après, par une appui de rencontre, 1 an. Donc si je regarde au prorata, l'IRL bat à plat de couture.
Mais oui, vous entendez ces chiffres-là, on ne fait pas du quanti, hein, c'est juste pour un peu lui donner raison. Mais qu'est-ce que vous faites encore sur les sites? Sortez, dites à vos potes qui sont chauds, viens, on sort, faire des rencontres, ou même juste on va te charrer entre potes. Voilà, profitez des terrasses au soleil, il y en a plein. Les filles sont magnifiques, elles demandent qu'à rencontrer l'amour, quoi.
Mais elles demandent qu'à rencontrer l'amour ou à échanger et ouais. Arrêter de vous mettre.
Ah oui, pas d'objectif, quoi.
Voilà, bille en tête, non, il faut à tout prix la performance. Parce que c'est ça aussi, la performance. Ouais, ouais. La performance.
Ah oui, j'ai embrassé ce soir, voilà, j'ai baisé ce soir.
Okay. Effectivement, c'est toujours mieux. Il faut que je revienne avec un numéro de téléphone. Moi, je le disais à une amie, ça me faisait rire. Je disais, mais moi j'en ai rien à foutre, je veux plus de numéro de téléphone, je m'en branle. Voilà.
Parce que t'es pas dans la magie, là t'es pas dans la magie, t'es dans l'ingénierie. Je veux un résultat. Voilà.
Ben j'en ai rien à foutre, mais du numéro de téléphone. Mais ce qui est intéressant, moi dans ce que j'ai pu sourcer là les derniers mois et tout, c'est que même sans que ça débouche sur quelque chose, voilà, quand j'aborde, à aucun moment, alors peut-être vous pourrez vous dire. Peut-être que je le fais d'une certaine... Ben oui, il faut le faire avec une certaine manière, avec un certain code de valeur, etc. Mais c'est toujours des discussions qui sont sympathiques.
Et après, ce qui est intéressant, c'est l'échange, au final.
Et après, avec la lecture des signaux fins, on voit... Mais après, ça, c'est les deux personnes qui échangent à l'instant T. Donc, effectivement, j'ai des techniques de presque de pick-up artiste, quelque part. Mais c'est pas le but. Et voilà. Mais c'est dans la vraie vie que ça se passera.
Ben oui, et puis s'il se passe rien, s'il faut, ça fait une semaine que t'as eu personne parce que tu faisais que bosser, t'étais chez toi, etc. Et juste parler à quelqu'un, c'est cool, quoi. Donc, bah, regarde le Covid, c'était pas trop bien du... Enfin, bon, en vrai,
pour le Covid... On n'a pas eu le même Covid, on en avait déjà parlé, mais...
C'est vrai. Voilà.
Mais oui, je suis d'accord avec toi. Donc, pour conclure là-dessus, parce qu'on pourrait dérouler des heures. Pour conclure cet épisode-là, donc, comme je vous le disais, moi, je trouve des trucs intéressants, par exemple, chez MGTOW, voilà, il y a des trucs que je trouve intéressants, certains concepts. Moi, j'ai envie de vous dire, ok, d'accord, il y a ces trucs-là, mais finalement, il y a plein de choses qu'ils disent qui coulent de sens. C'est du bon sens.
Du bon sens.
C'est-à-dire que, oui, entretiens-toi et une bonne hygiène de vie, voilà, sape-toi, développe certains capitaux, ouais, si tu le fais dans ce sens-là pour t'améliorer, ok, mais mets ça en application dans la vraie vie. Qu'est-ce que tu fous encore à là, oh mon Dieu, la vie est horrible. Alors oui, on vient de te dire qu'effectivement, la société veut que tu sois comme ça. Prouve le contraire. Reconnecte-toi avec ce qui fait de toi un homme viril et putain, prends des risques.
Mais oui, comme disaient nos grands-pères et comme ça se dit en France par l'origine catholique, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Mais bouge-toi, parce que sinon t'auras rien, quoi.
Mais c'est comme dans le boulot, etc. La réalité, elle est comme ça. Tu vas prendre des baffes, ouais, ça va faire mal, mais c'est comme ça que tu vas te construire.
Non, mais si tu bouges pas et que t'es un mou, tu risques pas de l'avoir, ta promotion, quoi.
Voilà, moi, comme je l'ai expliqué au travers de ce podcast et au travers de tout ce que je fais, oui, j'ai eu des moments plus difficiles que certains. J'ai eu des moments où je me suis dit, bah, tiens, si je sautais par la fenêtre, parce que du coup, ça m'enlèverait la douleur. Mais sans passer par cette étape de douleur, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et au final, ça m'a servi pour, quelque part, avoir une direction et être, quelqu'un de plus solide. Elle est là, l'histoire, en fait. Hein. Et c'est ça que vous devez retenir. Donc oui, je sais que c'est pas évident. Je sais que la solitude est difficile à gérer. Croyez-moi, je le comprends. Mais ce n'est pas en restant sur ces trucs-là et en allant donner votre argent à ces gens-là qui vont vous aider. Eux, ils ont tout intérêt à ce que vous restiez là-dedans, en fait.
À vous maintenir dans la merde parce que vous restez client. C'est-à-dire, t'as toujours le même besoin, quoi.
Exactement. Donc, moi, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur homme et virilité. Ça sera un complément. Je pense que je suis plus énervé que sur femme et virilité.
Parce que ça nous concerne.
Voilà, je suis plus énervé là-dessus. Et je vous le dis dès à présent, je vais vous donner les deux épisodes qui vont venir en suivant. Parce que si je fais femme et féminité, homme et virilité, et que je parle de la vraie vie, il est peut-être temps, que je fasse un épisode sur la séduction. Donc, c'est-à-dire, comment séduire ? Voilà, tout bêtement. Donc, je sais pas, je pense qu'Hyperion, j'ai vu son regard, il a envie de participer à
ouais, je suis très chaud.
Donc,
et promis, on vous vend rien après.
Donc, pour le mois d'août, voilà, ça fera la playlist de l'été. Voilà, vous en avez deux pour le mois de juillet. Il y en aura un autre pour le mois d'août. Donc, je vais faire un gros épisode sur la séduction. Donc, vous dire ce qui, pour moi, a toujours marché. Pourquoi ça a marché ? Pourquoi ça marchera toujours ? Quelles sont les choses à travailler en tant qu'homme pour que ça fonctionne ? Voilà. Donc, alors bien entendu, que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un projet derrière, hein, parce que le but, c'est pas non plus d'être le Casanova à la con, juste pour enquiller un chiffre à la Barney Stinson. C'est pas ça le but. Comme je l'ai dit, et n'oubliez pas, messieurs, parce que c'est, ça, je l'ai dit dans Femmes et Féminité, le but là-dedans de se reconnecter avec un homme, c'est de transmettre et c'est d'avoir un vrai projet de construction de vie avec quelqu'un, et c'est là aussi où je reconnecte avec les femmes, et c'est pour ça que je ne serai jamais un MGTOW, c'est-à-dire que moi, je vois en la femme une partenaire de vie, une équipe dans une direction, donc c'est vraiment cette complémentarité que je vois. Donc je ferai cet épisode sur la séduction, et pour septembre, parce que c'est la reprise, je ferai un épisode aussi qui me tient à cœur sur le statut d'entrepreneur, et je peux déjà vous donner son titre, ça s'appellera « Marche ou crève ». Voilà.
Génial.
Donc en tant qu'entrepreneur voilà, dans la tech, dans l'audiovisuel en France, donc quelles sont les limitations, parler de tout ce qui en tant qu'entrepreneur nous hérisse le poil, l'URSSAF, les impôts, voilà, tout ce qui nous limite, qu'on entend l'expatriation, etc. Voilà, parler de ce côté-là, mais
parce que ça fait partie de arpenter le chemin.
Et ça fait partie d'arpenter le chemin. Comme je te dis, je sais pas combien de temps durera ce volume, et je continuerai à écrire. Et ben, ce fut un plaisir, Hyperion, de t'avoir.
Partager.
J'ai ce podcast, quand je le monterai, je le sais déjà, c'est un podcast de haut vol, oui. Parce qu'on a tout. Hein. On a de l'ASMR non voulu.
On a de la pause un peu.
Voilà, on a du bégaiement. On ouais. est bien.
T'as vu ?
On sent qu'on était sur le fil du rasoir.
Enregistré dans les conditions du direct, toujours avec la même passion.
Exactement. Et ben, tu sais quoi, pour une fois, c'est toi qui vas conclure le podcast avec la célèbre phrase du podcast. On va voir si tu en as l'énergie.
C'est vrai. Eh ben, écoutez, c'était un vrai plaisir de partager le micro avec toi, mon Quadra. Et écoutez, chez Chronique dans Quadra, on décomplexe les sujets complexes. Merci, bonsoir. Broke. You can see the double R's when I creep slow. You can't have my dick if you can't deep throw. Yeah, turn up my voice, make this beat low. I create the wave, but I don't own no beach clothes. Lately, I've made a lot of enemies. Lately, I've been going through it mentally. So I got a palm and a rock in a pocket and puffing, protecting my energy. Spiritually, you couldn't measure me. My soul has been here for a century. We came out of high school together, and now we tweaking up the methamphetamine. We thought I was like... way shit. You see the double X's? We outside, bitch. Throwing L's like real Cleveland shit. You see those double X's? We outside, bitch. Yeah, meet me on floor 13. Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin.
C'était Chronique d'un Quadra, le podcast sans langue de bois qui décomplexe les sujets complexes.